18h-20h,
le grand journal du soir,
Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, bonsoir Marlène.
Bonsoir Wendy.
Bienvenue dans votre grand journal sur Europe 1, 2 heures d'infos, de débats, de découvertes et d'échanges. Alors que l'inquiétude grandit en Syrie, les Kurdes pris en étau entre l'offensive des Turcs et des familles de djihadistes qui s'enfuient des camps. Frédéric Ancel analyse avec nous cette situation dramatique sur l'antenne. 18h15, le ministre de l'Éducation nationale et son plan contre la violence à l'école et hors les murs. Que dit-on du côté des parents d'élèves? Eh bien Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, nous rejoint dans un instant. 18h15, une chanson dans la tête. La chanson préférée des Français qu'on connaît simplement avec ses premières notes. Fabien Lecoeuvre publie un livre sur Renaud et l'histoire de ses titres d'exception. 18h30, on va en entendre parler, le déremboursement des produits homéopathiques. J'en viens avec le docteur homéopathe Daniel Simeka. Et puis 19h30, pour le débrief de l'actu de la semaine, Bruno Jeudy et l'ancien magistrat Georges Fenech sont avec nous. Merci de votre fidélité. Voici le journal de 18h. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est 18h.
Combien d'enfants encore doivent mourir pour que les pouvoirs publics agissent enfin? Il faut que Kevin soit le dernier enfant que nous perdions.
Plus d'un millier de personnes ce matin dans la rue au Lila en région parisienne pour rendre hommage à Kevin, lycéen de 15 ans mort poignardé.
L'offensive turque donc, 800 proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique ont fui d'un camp au nord de la Syrie, annonce des autorités kurdes qui inquiètent le gouvernement français.
En Corse, un cargo toujours échoué dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.
Les plongeurs sont arrivés et vont pouvoir ausculter la coque, la partie sous-marine du bateau.
Et puis encore 2 heures de vote pour les militants LR. Ils choisissent le successeur de Laurent Wauquiez.
La droite n'est pas morte, hein, malgré ce qu'on entend depuis presque 2 ans et demi maintenant.
On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous.
Europe 1.
Nous commençons, Fabienne, avec l'inquiétude du gouvernement français face à l'offensive turque qui se poursuit dans le nord de la Syrie.
Inquiétude exprimée par la porte-parole du gouvernement sur France 3 après l'annonce des autorités kurdes. 800 proches de djihadistes étrangers de l'État islamique ont pris la fuite, ont annoncé les Kurdes ce matin. Ils se trouvaient dans le camp d'Aïn Issa. Nous retrouvons à la frontière entre la Turquie et la Syrie notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Qu'est-ce qui a rendu cette fuite possible, Jean-Sébastien ?
Eh bien, ces 800 personnes semblent avoir clairement profiter de la situation de chaos qui règne autour du camp. Tout d'abord, une série de bombardements aux alentours des lieux, puis un départ d'une partie des gardiens. Ils auraient quitté leur poste pour aller appuyer les forces kurdes prises dans les combats à 10 km de là. Profitant de cela, donc, certains de ses proches de Daesh auraient provoqué une émeute, s'en serait pris aux derniers gardiens restés sur place avec l'aide de cellules dormantes de l'organisation djihadiste, des personnes se faisant passer pour des réfugiés. Alors voir ces familles, essentiellement des femmes et des enfants proches, des membres de l'État islamique dans la nature, au milieu des combats, c'était la grande crainte des pays occidentaux, la crainte d'une possible résurgence de l'organisation terroriste dans le nord de la Syrie. Une crainte qu'Ankara tente d'apaiser aujourd'hui. La Turquie affirme qu'elle assumera la garde des membres de Daesh et de leurs familles en Syrie, mais sans préciser comment. Et quasiment au même moment, les États-Unis, accusés d'avoir provoqué cette situation en annonçant le retrait de leurs troupes dans la région, persistent. Ils précisent que ce retrait porte sur environ un millier de soldats.
Jean-Sébastien Soldaini à la frontière entre la Turquie et la Syrie pour Europe 1. Notez que Washington a annoncé que près d'un millier de soldats américains vont quitter le nord de la Syrie pour éviter de se retrouver pris en étau, dit le chef du Pentagone, entre les Kurdes et les Turcs. Et ce soir, l'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce que les bombardements dans le nord de la Syrie ont fait au moins 26 morts dans la ville frontalière de Ras El Ain, côté syrien. Au moins 10 civils ont été tués dans un raid qui a touché un convoi de civils et de journalistes.
Voilà, dommages et victimes collatérales, la politique d'Ankara, la posture des Occidentaux. On y revient sur l'antenne d'Europe 1 à 19h15 avec le spécialiste de géopolitique Frédéric Ancel. En France, ils ont été plus d'un millier à rendre hommage à Kevin ce matin, au Lila.
Kevin, c'est ce lycéen de 15 ans mort poignardé sous les yeux de plusieurs collégiens lors d'un cours de PS le 4 octobre dernier. Kevin qui se rêvait footballeur professionnel. Et c'est son cousin Kevin qui lui a rendu un hommage très émouvant, vous allez l'entendre, à l'issue de cette marche blanche.
Tout le monde te connaissait, mon Kevin. Tu étais cet enfant, ce frère, ce copain que tous auraient aimé avoir. À 3 ans déjà, tu courais derrière le ballon. Tu tombais, te relevais, tu courais encore et encore, sans pleurer. 10 ans après, ton rêve commençait à voir le jour. Tu étais tellement heureux quand tu as eu ta licence au Red Star. Tu te voyais déjà fouler les pelouses des plus grandes équipes de foot. Qui sait, tu serais peut-être devenu un des plus grands noms du foot français. Mon Kevin, Tes rêves sont restés inachevés, car on t'a volé la vie. Mon Kevin, tu n'es plus. Tu n'es plus, car en cette matinée du 4 octobre, alors que tu te rendais à une partie de foot avec tes amis, tu as croisé la route de trois jeunes assoiffés de violence. Tu as été poignardé à ton cœur, ce cœur que tu nous avais ouvert à tous. Combien d'enfants encore doivent mourir pour que les pouvoirs publics agissent enfin? Il est urgent d'agir par des actes concrets. Il faut que Kevin soit le dernier enfant que nous perdions.
Le cousin de Kevin, très émouvant ce matin à l'issue de la marche blanche devant Jean-Gabriel Bourgeois.
Alors qu'on compterait entre 20 et 30 accidents graves par jour à l'école et aux abords de l'école, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, on en parle avec le co-président de la FCPE dans un instant, Rodrigo Arenas. Direction l'Écosse à présent, où l'homme qui avait été arrêté par méprise vendredi dans l'affaire Dupont de Ligonnès est sorti libre hier du commissariat.
Et on rejoint en Écosse notre envoyée spéciale Pauline Jacquot. On ne sait toujours pas si cet homme a quitté le pays pour rentrer en France.
Oui, ce qui est certain, c'est que la famille du retraité joue la carte de la discrétion. Depuis hier, le clan rapproché de Guy cherche à tout prix à garder une forme d'intimité, de sécurité aussi, après avoir vécu tous les événements de ces deux derniers jours. À l'abri, dans leur pavillon ici, dans ce petit quartier résidentiel. Les rideaux sont à nouveau tirés et on a vu cet après-midi une voiture de police surveiller les abords de la maison. Une maison dans laquelle le couple s'est installé il y a un peu plus d'un an. Guy et sa femme Marie, écossaise, deux personnalités discrètes, disent les voisins. Personne ne les connaissait très bien dans cette ville de Dunoon, au sud de l'Écosse. Mais évidemment, depuis cette arrestation spectaculaire, presque tout le monde ici a eu vent de cette histoire. Des mésaventures de cet homme innocent, identifié l'espace de quelques heures par la police, comme étant bien le fugitif recherché Xavier Dupont de Ligonnès. À Dunoon, désormais, les habitants espèrent que la famille pourra retrouver un peu de calme et oublier cette erreur policière qui a choqué ici une bonne partie de la population.
Pauline Jacquot, en Écosse pour Europe 1.
En Corse maintenant, le cargo Rhodanus est toujours bloqué en Méditerranée, dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.
Et c'est la nuit dernière, Wendy, qu'il s'est échoué. Pour l'instant, pas de traces de pollution sur zone et une opération pour remorquer le cargo est en préparation, Sophie Echen.
Oui, deux bateaux ont quitté Toulon dans la matinée. Le remorqueur d'intervention et de sauvetage Abeille Flandre et le bâtiment de dépollution Jason. Le but de l'opération est de désenclaver le cargo de 90 mètres. Une opération très délicate car il y a beaucoup de rochers dans cette zone. Arnaud Gillet est sous-préfet de Sartène, en Corse du Sud.
Alors, la situation a évolué sur deux points. C'est que les plongeurs sont arrivés et vont pouvoir ausculter la coque et donc la partie sous-marine du bateau. Ils ont été héliportés. On les a vus descendre et ils vont rentrer en action pour voir sur quoi il est échoué, etc. Ce qui permettra de faciliter les opérations de désenchouage. Et ensuite, le remorqueur est effectivement en route et vraiment à l'approche du site où on est à l'heure actuelle.
Le navire transportait plus de 2600 tonnes de bobines d'acier à son bord, mais pour l'heure, il n'y aurait pas de risque de pollution. La navigation et les activités nautiques sont encore interdites dans un rayon d'un kilomètre autour du Rhodanus. Le cargo ne devrait pas bouger cette nuit. Les opérations de déjéchouement auront lieu demain matin.
Sophie Echen. Au Japon, le bilan s'est alourdi au fil des heures après le passage du typhon Hagibis. Au moins 26 morts et plus de 110 000 secouristes à pied d'œuvre alors que la nuit est tombée pour venir aux habitants piégés par les inondations. On sera au Japon dans le journal de 19h.
Encore deux heures de vote pour les adhérents LR pour choisir leur nouveau président. Trois candidats étaient en lice pour succéder, vous le savez, à Laurent Wauquiez, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé.
Un militant sur quatre avait voté à la mi-journée. Claudia Bertram, où en est-on ce soir de la participation?
Eh bien, il y a une heure, la haute autorité du parti enregistre plus de 53 000 votants, soit 40% de participation. Un niveau plus élevé que prévu, puisque ces derniers jours, les cadres de LR tablaient sur 30 à 50 000 personnes. Il y a deux ans, 100 000 votants avaient élu Laurent Wauquiez, mais autant d'adhérents ont quitté le parti depuis. Les militants restants se sont donc mobilisés aujourd'hui. Certains, croisés au siège des Républicains, se veulent confiants pour l'avenir.
La droite n'est pas morte, hein, malgré ce qu'on entend depuis presque deux ans et demi maintenant.
Ça sera peut-être un peu long, mais je pense qu'on va arriver à quelque chose.
Mais pour cette autre militante, le nouveau président de LR aura beaucoup de travail pour reconstruire le parti.
Il faut un rassemblement d'abord, parce qu'il part dans tous les sens. Il y a qu'à voir Valérie Pécresse, c'est libre, Xavier Bertrand est parti, beaucoup sont partis. Si on rassemble, je pense que les électeurs reviendront.
Autre question centrale ce soir, l'un des trois candidats parviendra-t-il à obtenir la majorité absolue et à être élu dès le premier tour, un gage de légitimité? Si ce n'est pas le cas ce soir, un second tour aura lieu le week-end prochain.
Et on l'a dit, encore deux heures pour voter et comme ce sont des votes par Internet, on aura les résultats d'ici une demi-heure après la fin du scrutin, donc vers 20h30.
Affirmatif, chère Fabienne Lemoyle, à la semaine prochaine sur Europe 1.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec
avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Le temps de demain lundi, ça donne quoi Valérie Darmon?
Eh bien, c'est perturbé sur une grande moitié ouest de la France, plus lumineux à l'est en attendant la perturbation. De la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, le temps sera couvert et pluvieux dès ce lundi matin, mais la Bretagne retrouvera un temps un petit peu plus calme l'après-midi avec quelques vagues éclaircies. Les pluies se maintiendront et se renforceront ailleurs en progressant vers le bassin parisien, la Champagne, les Ardennes, la Nouvelle-Aquitaine et le centre. Partout ailleurs, le soleil restera généreux, le vent restera sensible, soufflant jusqu'à 80 km/h sur le massif central et sur la chaîne pyrénéenne et 90 en vallée du Rhône et en Val-de-Saône. Les températures restent douces, 10 à 14 de la Bretagne à la Manche ce lundi matin, 12 à 17 ailleurs, 17 à 20 sur le sud-est. L'après-midi, 14 à 20 degrés de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France et 20 à 28 ailleurs.
Merci Valérie Darmon. À tout à l'heure, 18h30 sur Europe 1. À suivre, Wendy Bouchard.
Et avec notre invité, nous reparlons, Marlène, des violences à l'école au soir d'une nouvelle marche blanche en Seine-Saint-Denis. Vous avez entendu ce témoignage très émouvant du cousin de Kevin. Comment on refonde les murs de l'école? Comment protège-t-on les enfants et les professeurs? Rodrigo Arenas, co-président de la FCFE, nous rejoint tout de suite.
Europe 1, le grand journal du soir.
Wendy Bouchard. Europe 1.
Jusqu'à 20h, nous sommes avec Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h13 et vous l'avez peut-être entendu dans le journal, cette marche blanche en Seine-Saint-Denis.
Marche blanche en mémoire de Kevin, 15 ans, poignardé sous les yeux de ses copains il y a quelques jours en marge d'un cours d'EPS au Lila. Merci de nous rejoindre Rodrigo Arenas.
Merci à vous.
Vous qui êtes coprésident de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves. La FCPE était dans le cortège aujourd'hui, bien sûr, au Lila. Pour dire quoi ?
En fait, nous, on est des parents, donc évidemment, contrairement à ce qui peut se dire, ça concerne jamais les autres, ça concerne toujours les autres, etc. Ça peut concerner n'importe quel gamin aujourd'hui. Et en tant que parent, il est normal qu'on soit à côté d'une famille qui aujourd'hui est endeuillée et aussi une famille qui est à l'école, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les élèves aussi, qui ont manifesté et qui ont défilé très massivement pour dire que ça ne peut pas. Que ça doit s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des parents, quand ils mettent les gamins à l'école, en fait, ils ont peur. Et les gamins aussi ont peur d'aller à l'école. Et ce n'est pas une situation qui est normale.
Une famille qui ne comprend pas, comme tant d'autres, que l'école ne soit plus un sanctuaire et qu'il y ait de la violence à l'école. Absolument. Et aux abords immédiats.
À l'école et aux abords immédiats. Alors, nous, malheureusement, ce n'est pas une situation qu'on découvre, notamment en Seine-Saint-Denis, puisque c'est là où ça a eu lieu, mais ça peut aussi avoir lieu ailleurs. C'est des choses qu'on dit depuis très longtemps, notamment parce que l'action de l'État, d'une certaine façon, est inefficace, notamment pour lutter contre les trafics de stupéfiants qui sont autour des établissements aujourd'hui. Le fait que l'État, d'une certaine façon, déserte des quartiers de la République, que des quartiers se ghettoisent, que ce soit en Seine-Saint-Denis, mais aussi ailleurs, eh bien, nous avons dans des quartiers où la présence de l'État n'est plus là, et donc que d'autres personnes prennent la place. Et les autres personnes, c'est précisément les trafics. Donc, à un moment donné, imaginez que toute cette ambiance ne s'invite pas dans l'école, soit c'est du déni, soit c'est de la folie, ou en tout cas ça se traduit aujourd'hui par la pire des manières.
Donc une des réponses, c'est celle peut-être donnée par le ministre de l'Éducation qui souhaite renforcer la présence policière dans les zones qui le nécessitent. Au Lila, par exemple, en Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, Rodrigo Arenas.
En fait, lutter contre les trafics, c'est quelque chose qui relève pas seulement autour des écoles, c'est quelque chose de plus global. Aujourd'hui,
ce travail-là n'est pas fait, n'est plus fait. Il y a des zones de non-droit.
En tout cas, ça relève pas du ministère de l'Éducation nationale. Oui. Le ministère de l'Éducation nationale a un rôle d'éducation. L'éducation, c'est le temps long. Ça veut dire que dès la maternelle, il faut informer les enfants de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. D'ailleurs, on a proposé au ministre le 4 septembre d'enseigner le droit en fait aux enfants dès la maternelle. Alors évidemment, adapté à chaque âge, parce que la question, c'est la transgression à la loi. C'est la transgression à ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Ensuite, il faut que le ministère de l'Intérieur, avec ses services, prenne leurs responsabilités et sorte en fait tous ces trafiquants qui sont autour des écoles et qui d'ailleurs récupèrent nos gamins pour faire les guetteurs, etc., qui se mettent par exemple au collège, aux abords des fenêtres pour prévenir les dealers qui sont à l'extérieur. C'est ça la situation qu'on vit. Et ça, nous, en Seine-Saint-Denis, ça fait des années qu'on le dénonce et ça fait des années en fait que les solutions qui sont mises ne sont pas efficaces. C'est pas une bataille de chiffres. La transparence, je l'entends, attendez, la transparence, on la connaît, nous, on vit dedans.
Donc, la transparence sur les faits de violence que vous promet Jean-Michel Blanquer, ça
la
vous
question,
intéresse plus.
C'est la transparence. Pour qui? Si c'est la transparence pour l'opinion publique, parce qu'il faut la rassurer, faisons-la. Mais la transparence pour les parents et pour les enfants, notamment, qui vivent dans ces quartiers-là, ils la vivent au quotidien. Donc nous, on a besoin de transparence, on a besoin de moyens humains pour lutter contre les trafics.
Ce que vous voulez comprendre, oui, pardon. C'est comment, par exemple, des armes vraies ou factices peuvent se balader à l'école, comment des profs peuvent être menacés, comment aussi, et j'y viens, parce que vous êtes représentant des parents d'élèves, Rodrigo Arenas, comment aussi, il y a une impunité parfois qui s'installe chez les parents d'élèves.
Vous avez
une volonté de ne pas voir.
En fait, c'est ce que je vous disais, c'est que quand nous, on est une génération à qui on n'a pas enseigné le droit. Donc finalement, quand on le transgresse, on n'est pas forcément au courant. Alors nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il la connaître.
C'est ce qui est mal quand même, il y a des grands principes.
Et c'est quelque chose qui, c'est-à-dire que notre génération, d'une certaine façon, c'est pas que c'est trop tard, mais nous avons la responsabilité que ça ne se reproduise plus pour nos enfants. Donc oui, il faut arrêter avec ces lycées où il y a 36 gamins par classe, où c'est intenable pour l'enseignant. Oui, il faut arrêter avec ces moyens de vie scolaire qui ne sont pas dimensionnés à des établissements qui ont entre 600 et 1000 élèves. Oui, il faut arrêter avec ces contrôles à l'entrée avec des gamins qu'on connaît parfaitement bien et qu'on met dans des situations de contrôle permanent, etc. Il faut aller vers de la bienveillance, il faut aimer nos enfants. Et ça, c'est un acte éducatif qui doit rentrer dans l'école. Pour ce qui concerne le travail de police, il faut qu'il se fasse, mais en coordination avec l'ensemble du gouvernement et pas simplement le ministère de l'Intérieur et Éducation nationale.
Il y a une réalité, 20 à 30 accidents graves dans ou aux abords de l'école, disait Jean-Michel Blanquer dans une interview au Parisien aujourd'hui. 1500 élèves qui manifestent chaque année un comportement d'une extrême violence en collège, au lycée, parfois même au primaire. On les connaît, ces élèves-là. Qu'est-ce qu'on en fait, Rodrigo Arenas?
Précisément, aujourd'hui, il s'agit de mettre en place des actions éducatives qui soient un peu plus d'envergure avec des moyens qui vont avec. C'est-à-dire que si, quand vous avez une classe, par exemple, je donne un exemple très concret, une classe dans laquelle vous avez 3, 4 enfants qui sont porteurs d'handicap, quels qu'ils soient d'ailleurs, et que les moyens humains ne sont pas là pour pouvoir faire en sorte que la classe vive, à un moment donné, ça va nous péter à la figure. Mm-hmm. Parce que les gamins sont sous tension, les enseignants sont sous tension, les programmes ne sont pas faits, et in fine, les gamins passent à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, les dispositifs qui existent, comme ceux qui sont mis en œuvre aujourd'hui par le ministère, en fait, il a rien inventé, ça existe depuis un certain temps, aujourd'hui, sont engorgés parce que le système fait qu'on préfère se débarrasser des gamins qui sont perturbateurs plutôt que d'avoir une action éducative. Et ça se traduit par exemple en Seine-Saint-Denis avec l'équivalent d'un collège qui n'est pas scolarisé aujourd'hui. Donc on est dans ces situations-là, on préfère se débarrasser des mômes plutôt que d'avoir une action éducative d'envergure. Les éducateurs spécialisés, ils sont dépassés. Les juges pour enfants, ils ont fait grève il y a 2 ans en disant que les sanctions qu'ils prennent ne sont pas suivies de fait parce que simplement les éducateurs qui mettent en œuvre les décisions de justice ne sont pas suffisants. Vous voyez, c'est ça la situation.
J'entends
il faut
bien.
Que ça cesse.
Vous êtes coprésident de la FCPE, je le répète, Fédération des conseils de parents d'élèves. Est-ce qu'on peut parler des parents, par exemple, cette femme et cette maman, cette grand-mère dans l'Hérault, qui menace de mort une professeure. La professeure a diffusé d'ailleurs sur les réseaux cette vidéo. On va te crever, etc. Au prétexte qu'elles avaient giflé leur enfant. Comment des parents peuvent se comporter de manière aussi terrifiante, donnant le même exemple aux enfants aujourd'hui? C'est une réalité, ce n'est pas un cas isolé.
C'est pas un cas isolé, pour autant, c'est pas un cas généralisé non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les parents, comme les enseignants, comme n'importe quel citoyen dans notre pays, quel que soit son grade, quel que soit son statut, sache qu'il n'est pas au-dessus de la loi, qu'il n'est pas au-dessus des règles. Donc quand on transgresse les règles, quand on transgresse la loi, il y a une sanction.
Qu'est-ce qu'on fait des parents de, pardon, parce que je vais tout de suite un autre cas, d'enfants harceleurs? Oui. Qui ne vont pas, par exemple, aux convocations, qui prennent ce problème par-dessus la jambe.
Quand vous avez des parents, clairement, qui sont défaillants dans un rôle éducatif de leur enfant, c'est ça dont on est en train de parler, il y a quelque chose qui existe dans notre pays, qui s'appelle un juge pour enfants. Et les juges pour enfants, en l'occurrence, ils peuvent retirer l'autorité parentale d'un parent dès lors qu'il devient pas dans leur... Il ne fait pas son job correctement.
Sans en arriver là, un parent qui ne se rend pas à une convocation sur
Vous parlez de menaces, donc quand on fait des menaces physiques ou verbales
enfant à l'école et dont les parents ne se rendent pas aux convocations, ça ne les intéresse pas.
Il y a 2 ans maintenant, on avait écrit à Mme Macron, en l'occurrence, puisque c'est sa responsabilité au sein de l'Élysée, pour dire qu'aussi les enfants n'étaient pas écoutés dans notre pays. C'est-à-dire qu'on avait proposé que le numéro vert qui a existé, qui permettait de dénoncer le harcèlement d'enfants envers enfants, n'était pas suffisant parce qu'il y a aussi du harcèlement d'adultes envers enfants. Mmh. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que la question du harcèlement, c'est-à-dire la question des violences qui sont faites en milieu scolaire, ne sont pas suffisamment prises en compte parce qu'aussi les personnels pour les suivre ne sont pas en nombre suffisant.
Oui. Donc, je parlais de la responsabilité parentale, c'est incommensurable.
C'est-à-dire qu'un parent aussi doit pouvoir évoluer. Mmh. Quand on prend par exemple, on en échangeait hors antenne tout à l'heure, quand il y a un parent qui pense que mettre une fessée à un enfant, c'est quelque chose de pas grave, et bien si c'est grave, c'est-à-dire que avoir une action physique ou morale envers un enfant, qu'on soit un parent ou qu'on soit un adulte, juste c'est pas un acte éducatif et juste c'est illégal. Donc ça se pose de cette façon-là. Et il faut que les parents comprennent et il faut qu'on les éduque aussi d'une certaine façon, mais en tant qu'adulte, c'est pas des enfants, il faut arrêter d'infantiliser les parents, que oui, un enfant qui harcèle un autre enfant, les parents sont responsables.
Apprendre aussi aux parents à respecter les professeurs.
Et quand ça se passe à l'école, les chefs d'établissement ou les directeurs d'école ont le devoir, parce que c'est leur job de le faire, de signaler cela pour que ce soit pris en compte. Et il faut sortir du déni, que ce soit un parent, que ce soit un enseignant, et y compris que ce soit un enfant. Il faut que les bouches s'ouvrent pour traiter ce problème du harcèlement qui aujourd'hui devient quelque chose qui pète à la figure de tout le monde, parce que simplement, on a été dans le déni de ces situations-là. Merci. Et que beaucoup d'enfants ont souffert de ça, et parfois même, excusez-moi de finir sur une note négative, mais de la pire des situations avec ces enfants qui se donnent qui mettent fin à leur jour. Ça, il faut que ça cesse.
Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, merci de votre présence ce soir sur Europe 1.
Merci à vous.
Et dans un instant, Wendy Bouchard, c'est le journal des sports sur
Europe
1. Avec
Christophe Lamar pour vous servir.
18h-20h, Wendy Bouchard vous informe sur Europe 1.
Bienvenue dans votre grand journal du soir. Il est déjà 18h23, Wendy Bouchard, c'est l'heure du journal des sports.
Présenté par Christophe Lamar. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Wendy.
Voici les titres de ce 13 octobre.
La qualification pour la première fois de leur histoire des rugbymen japonais pour les quarts de finale de leur propre Coupe du Monde. Plus qu'un match. Les Bleus sont à une victoire d'une qualification pour l'Euro 2020. Il faudra battre la Turquie demain soir. Message rappelé encore une fois par le sélectionneur Didier Deschamps qui se méfie du contexte qui entoure cette rencontre.
Une première donc pour le Japon en Coupe du Monde de rugby. Le pays se qualifie pour les quarts de finale.
Et pour la première fois de leur histoire, les Japonais vont participer donc à des quarts de finale d'un mondial de rugby. Il fallait battre l'Écosse cet après-midi. C'est chose faite, victoire 28-21. Et on imagine la joie et le soulagement des supporters japonais. On retrouve notre envoyé spécial sur place. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
C'est un exploit hors norme que vient de réaliser le Japon, n'est-ce pas Simon ?
Mais pour vous rendre compte de l'exploit, écoutez simplement la joie des Japonais à la fan zone de Tokyo au coup de sifflet final. Et oui, pour la première fois de l'histoire, le Japon se qualifie pour les quarts de finale après un match héroïque, spectaculaire, sans doute l'un des plus beaux jeux pratiqués depuis le début de la Coupe du Monde, ultra dynamique, rapide, instinctif, technique. 28-21, score final des Japonais qui ont tenu et qui étaient en larmes à l'issue de la rencontre. Leur coach qui avait dit avant ce match, je veux qu'on gagne le droit d'être respecté, eh bien ce soir c'est le cas, le Japon poursuit l'aventure dans sa Coupe du Monde.
Simon Rubin, envoyé spécial d'Europe 1 au Japon.
Donc on fait le point sur le tableau des quarts de finale de ce mondial de rugby qui est désormais complet. Dites-nous.
Oui. Angleterre-Australie à 9h15 samedi prochain. Bien sûr, il s'agit d'heure française. Mmh. Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire les All Blacks, Irlande à 12h15, toujours samedi. Et puis le lendemain dimanche, les deux derniers quarts de finale, Pays de Galles, France à 9h15. Et enfin, Japon-Afrique du Sud à 12h15.
On passe au foot, Christophe Lamar et la France patiente avant le choc lundi, demain contre la Turquie au Stade de France.
Il faut rappeler que les Français s'étaient inclinés 2-0 au match aller. Les choses pourraient bien être différentes demain soir. Un succès et la qualification pour l'Euro 2020 sera dans la poche. C'est cela que veut d'abord retenir le sélectionneur Didier Deschamps et surtout pas les tensions liées à l'offensive turque dans le nord de la Syrie.
On sait l'importance du match de demain. Confrontation directe avec un adversaire qui a obtenu le même nombre de points que nous. Ils sont à 18 points, donc on va rester focalisé là-dessus, de faire en sorte d'obtenir cette victoire. Après tous les problèmes géopolitiques, ils sont là, mais on est dans une sphère sportive et un match de football, dans un stade de football. Donc, faire en sorte d'être resté concentré là-dessus. Quoi.
Didier Deschamps au micro de Cyril de la Morinerie. France-Turquie demain soir au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Et puis à l'étranger, Neymar s'est blessé avec la sélection brésilienne. Le joueur a ressenti une douleur derrière la cuisse. Il est d'abord resté sur le terrain avant de sortir. On ignore si la blessure est sérieuse ou s'il ne s'agit que d'une petite alerte.
Le reste de l'actu sportive avec un immense bravo à une championne d'exception.
Simone Biles, en américain s'il vous plaît, remporte une 19e médaille d'or aux Mondiaux de gymnastique de Stuttgart et porte son total de médailles à 25, c'est le record absolu pour une gymnaste. Hommes et femmes confondus, l'américaine n'a que 22 ans et peut encore augmenter ce capital. Elle est aussi américaine, mais elle joue au tennis et elle est encore plus jeune. À 15 ans, Coco Gauff remporte son premier titre sur le circuit à Linz en Autriche. Je me rappellerai de cette journée toute ma vie, a-t-elle expliqué après son succès. Coco Gauff qui va entrer dans le top 100 mondial demain. Elle sera très exactement 71e au classement WTA. Et puis en cyclisme, Yele Wiles remporte le Paris-Tour en solitaire. Niki Terpstra prend la deuxième place, Oliver Nissen, la troisième.
Merci Christophe Lamar et on trouvera 19h15 Lionel Rousseau et son invité du soir, Luis Fernandez. À tout de suite Marlène.
Oui, le grand journal du soir, c'est aussi notre rendez-vous. On va en entendre parler.
Avec le déremboursement des traitements homéopathiques qui fait grincer les dents. À tout de suite.
18h-20h, Wendy Bouchard.
Il est 18h30, le grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Wendy Bouchard.
Et voici l'essentiel de l'actualité de ce 13 octobre. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Les familles de djihadistes français présents en Syrie demandent le rapatriement d'urgence de leurs proches. Un appel après que 800 femmes et enfants de djihadistes du groupe État islamique se sont échappés d'un camp de déplacés à la suite de l'offensive turque en Syrie. Une nouvelle qui inquiète les autorités françaises. Des larmes et de la douleur, plus d'un millier
milliers de personnes à participer à une marche blanche aujourd'hui entre le Pré Saint-Gervais et les Lilas en région parisienne. Un hommage à Kevy, un lycéen de 15 ans tué à coups de couteau la semaine dernière lors d'une rixe. Il n'y a pas de pollution dans la réserve naturelle de Bonifacio en Corse, annonce de la préfecture après qu'un cargo s'est échoué la nuit dernière. Le navire de 90 mètres de long transporte des bobines d'acier. Le puissant typhon Agibis a dévasté une partie du Japon. Des maisons ont été submergées ou emportées par les eaux. Les pluies diluviennes ont entraîné des glissements de terrain. Au moins 26 personnes ont été tuées. 110 000 secouristes sont sur le terrain pour venir en aide à la population. Merci Sophie.
Petit point météo, Valérie Darmon, c'est la douceur qui domine toujours demain, Valérie.
Et oui, les températures n'évoluent pas beaucoup. Au lever du jour, elles s'oscilleront entre 12 et 18 du Grand Est au Pays Basque. L'après-midi, grand écart entre la Bretagne et la Normandie, où on n'attend pas plus de 15 degrés, alors que le thermomètre affichera 25 de l'Aquitaine à Rhône-Alpes jusqu'en plaine d'Alsace, avec des pointes à 30 degrés sur le Piémont pyrénéen, avant les orages qui arriveront dans la soirée. De l'Aquitaine aux côtes de la Manche, temps gris et pluvieux toute la journée. À l'est du Rhône et de la Saône, vous êtes protégés par l'anticyclone situé sur l'Europe centrale, donc là plutôt au sec et au beau. Et entre ces deux influences, vous avez un ciel variable, parfois menaçant, avec le développement de forts orages donc en fin de journée.
Merci Valérie Darmon. Bonne fin de journée avec nous sur Europe 1 et avec Wendy Bouchard. On va en entendre parler. L'actualité est parfois ce programme, Wendy.
On va en entendre parler, c'est avec vous. Bonsoir Naïma Benchemann.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Demain, Emmanuel Macron reçoit le président du Conseil européen, Donald Tusk, ce sera à l'Elysée.
Avant une semaine qui s'annonce très européenne, en effet Wendy, Emmanuel Macron sera jeudi à Bruxelles pour un nouveau sommet des 28 et l'ambiance risque d'être un petit peu glaciale entre le Brexit, les interrogations sur le budget européen et le rejet jeudi dernier de la candidate française au poste de commissaire européen Sylvie Goulard.
Mardi, des chiffres révélés par l'UNICEF.
L'Organisation mondiale de défense des droits de l'enfant publiera un panorama détaillé avec les nouveaux chiffres de la malnutrition infantile à travers le monde. Selon l'UNICEF, aujourd'hui, un enfant sur quatre de moins de 5 ans souffre de malnutrition dans le monde et l'Afrique est de loin la région la plus durement touchée par ce fléau.
Mercredi, on va au cinéma.
Vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non.
Pour voir Camille, un film tiré de l'histoire vraie de Camille Lepage, une photoreporter de 26 ans, assassinée le 6 mai 2014 au cours d'une série de reportages à Bangui, en Centrafrique, alors déchirée par une troisième guerre civile.
Ouais, c'était absolument terrible et c'est un film très émouvant. Dans le monde, on peut rappeler quelques chiffres en 2018.
80 journalistes sont morts, Wendy, dans l'exercice de leurs fonctions, selon Reporters sans frontières.
Et la petite actrice que vous verrez peut-être dans Camille, Nina Meurice, a reçu le prix de la meilleure actrice au festival du film francophone de La Rochelle. Jeudi, coup de projecteur sur l'un des événements du mois d'octobre à Paris, la FIAC, partie pour 4 jours.
Cette 46e édition de la FIAC fera vibrer la capitale au rythme de l'art contemporain. Des milliers d'œuvres exposées par 197 galeries seront vendues. Mais la FIAC, Wendy, c'est bien plus qu'un simple marché de l'art. C'est devenu une manifestation incontournable de la création artistique dans le monde.
Bien, et puis deux concerts pour terminer le week-end prochain.
Alors Wendy, l'Englishman ne sera pas à New York, mais bien à Paris. L'immense Sting sera en concert samedi soir à l'Accor Hotel Arena. Et ce sera sa seule date dans la capitale.
Et c'est complet, j'imagine.
C'est complet. Ouais. Et puis, autre registre à tous les fans de rock.
C'est pas à l'Accor Hotel Arena?
Non, direction l'Olympia dimanche prochain, Wendy, pour vous laisser aller aux mélodies entêtantes des tubes du groupe américain The Pixies.
Les Pixies, dont le dernier album s'intitule
Beneath the Highway, sorti le 13 septembre dernier.
Dans un instant, sur Europe 1, on va en entendre parler l'interview, Wendy.
L'interview autour du déremboursement des médicaments homéopathiques. Mon invité, le docteur Daniel Simeka, est médecin généraliste homéopathe et auteur du livre Homéopathie, l'évidence. A tout de suite, si vous êtes consommateur, soyez à l'écoute.
18h-20h, Wendy Bouchard.
18h37, on vous retrouve Wendy Bouchard pour la suite de ce grand journal du soir sur Europe 1.
Et on va en entendre parler de l'homéopathie, des traitements que vous utilisez peut-être depuis bien longtemps et qui cesseront donc d'être remboursés à partir du 1er janvier 2021. Deux arrêtés ont paru cette semaine au journal officiel. Bonsoir docteur Daniel Simeka.
Bonsoir.
Vous êtes médecin généraliste, vous êtes président de la Fédération française. Merci de venir nous éclairer un peu plus sur ce sujet, sur Europe 1. On sait que l'homéopathie concerne beaucoup, 40 000 médicaments, 1 700 références, des millions de Français qui sont habitués à ces traitements. Depuis combien de temps d'abord était-il pris en charge par la Sécurité sociale ?
Depuis les années 80, c'est une grande tradition auxquelles les Français sont attachés. C'est 3 Français sur 4 qui se soignent régulièrement, au moins occasionnellement, par homéopathie. Plus d'un Français sur 2 qui en est satisfait de façon extrêmement régulière. 30% des médecins généralistes qui ont une opinion favorable des traitements et des suivis homéopathiques. C'est très français et c'est très ancré.
Ça veut dire qu'on se rend compte aujourd'hui que pendant 30 ans, on a injustement remboursé ces médicaments ? Alors, je me place du point de vue du ministère de la Santé qui a acté cette décision.
Écoutez, moi j'ai le point de vue strictement inverse, bien entendu. Hein. Le médicament le moins cher du monde, le médicament qui n'entraîne aucun mésusage, aucun effet secondaire.
Aucune
accoutumance, et effectivement, et qui apporte une solution thérapeutique, pas dans tout bien évidemment, mais dans un certain nombre de pathologies, et qui apporte une satisfaction à la population, donc un service médical rendu au sens strict du terme, c'est tout à fait légitime qu'il soit toujours pris en charge. Là, l'épée de Damoclès, c'est donc, on passe à 15% au 1er janvier prochain et à zéro au 1er janvier 2021. Nous restons mobilisés, nous espérons bien redresser la barre avec peut-être d'autres preuves, d'autres études. Le monde bouge à cet égard, à en juger d'ailleurs par les nouvelles de l'Australie. Vous êtes certainement au courant de ce nouveau rapport, un rapport de 2015 australien qui étudiait tout un tas, comme on dit, une méta-analyse, c'est-à-dire on étudiait tout un tas d'études de santé publique sur l'homéopathie.
D'accord.
Ça concluait à l'inefficacité de l'homéopathie. En fait, ce rapport était une version 2 d'une vraie version 1 qui a été retrouvée à la demande d'une pétition internationale. Et cette version 1, elle est publiée depuis quelques jours. Donc, elle montre que l'homéopathie est efficace.
Décision australienne qui pourrait faire pour vous
absolument,
qui, puisque
bouger les consciences. C'est sur cette décision, cette étude de 2015 que se basait la plupart de nos détracteurs.
Est-ce que ce n'est pas aussi une question de gros sous, 126 millions d'euros par an qu'économisera donc la Sécurité sociale ?
Écoutez, moi je parlerai de petits sous parce que c'est un confetti dans le budget de l'assurance maladie. C'est quand même 0,29% des frais de médicaments de l'assurance maladie. C'est rien du tout. Lorsque l'on sait qu'on va passer d'un médicament remboursé à 30% qui coûte 2,35 € à un médicament classique...
Ça fait 20 centimes ou 30 centimes d'euros.
Ça fait 20 centimes avec la franchise médicale. On va passer à des médicaments qui, la plupart du temps, sont remboursés à 70% et qui, en moyenne, coûtent 10,58 €.
Donc vous avez l'impression que...
Ça fait 35 fois plus cher.
Qu'on tape sur les médicaments des pauvres, entre guillemets ? Des plus pauvres ?
Alors, les plus pauvres... toutes les classes sociales se soignent par homéopathie, mais bien évidemment, ce seront les plus défavorisés. Je pense à mes patients en CMU, à mes patients en AME, qui vont encore, effectivement, pâtir. Surtout du fait des mésusages. Moi, je sais bien que ce profil de patients, ils veulent du remboursé, même si c'est pas cher. Et on sait qu'en étant déremboursé, le médicament homéopathique, il va augmenter de toute manière. Mais même si c'est pas cher, ces patients-là n'ont pas accès à ce type de traitement
Docteur
si c'est pas remboursé.
Daniel Simeka, on va revenir, évidemment... aux patients, mais je pense, moi, aux étudiants en médecine qui auraient cette sensibilité homéopathe que vous avez, vous, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour eux ?
Écoutez,
est-ce qu'ils pourront continuer à passer les diplômes universitaires ?
Oui, pour l'instant, il n'y a pas de remise en cause globale ou des diplômes ou des formations. Ce qui est remis en cause par le Conseil national de l'Ordre de façon extrêmement surprenante. Parce que moi, j'ai une très haute opinion des sages du Conseil national. Là, ils ont fait une sorte, c'est moi qui le dis, de boulette. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, pour les nouveaux médecins, possibilité d'être transparent vis-à-vis des patients. N'aura plus, jusqu'à présent, depuis 1995, je participais d'ailleurs à cette commission qui a pris cette décision, le Conseil national avait souhaité que les patients puissent être informés, savoir si le médecin qu'ils vont consulter comme étant un expert en homéopathie a été vraiment expert? Est-ce qu'il avait véritablement une formation?
Avec une plaque, avec un bordereau.
Et donc, cette autorisation, il y avait une vérification des diplômes, des types de formation, il y avait un cahier des charges, et donc, on autorisait ou pas un médecin à marquer ça sur sa plaque et sur ses ordonnances. Mmh. Aujourd'hui, la démographie médicale fait que c'est pas les médecins, nous, on n'est pas très embêtés, y compris, je pense, les nouveaux médecins, parce que la démographie est, hélas, de notre côté. C'est une perte de liberté pour le patient.
Vous pourrez continuer en effet à diversifier les outils pour soigner vos patients. Perte de liberté pour le patient, qui auront quand même accès à ces références demain. Ça
oui,
ne changera
bien sûr,
pas.
Mais qui ne pourront pas. La décision du Conseil de l'Ordre fait qu'un patient ne pourra plus savoir, chez les nouveaux médecins, si le médecin qui argue d'être expert en homéopathie l'est vraiment ou pas. C'est une perte de transparence extrêmement dommageable. Et depuis plusieurs jours, on me demande toujours, mais alors les médecins. Non, les médecins, on est très dépités, mais on n'a pas trop de problèmes. C'est le patient qui est lésé.
77% des Français attachés à l'homéopathie, 50% qui disent l'utiliser régulièrement. Vous craignez aussi un déblocage du prix bloqué depuis 1988 et des labos qui produisent ces références qui pourraient augmenter leur prix
Les laboratoires augmenteront sûrement un petit peu puisqu'ils vont perdre en volume, ça c'est logique, mais moi je ne suis pas un économiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on change de taux de TVA et en plus le médicament homéopathique arrive à la pharmacie comme un produit à vente libre. Donc, il y aura aussi, comme pour les compléments alimentaires, une fluctuation des prix au détriment du patient.
Vous gardez votre plaque, docteur Daniel Simeka. Vous êtes médecin généraliste et médecin homéopathe?
Oui, enfin, depuis 35 ans, il n'y a pas marqué homéopathe sur ma plaque. Il n'y a que marqué médecine générale, mais ça, c'est un choix personnel. Oui. Je pense que la médecine générale, elle est une et indivisible et qu'on a chacun l'expertise que l'on souhaite.
Même si l'homéopathie reste pour vous l'évidence, c'est le titre de votre ouvrage.
Et la thérapeutique de première intention dans bien des cas.
Merci. Vous nous rappelez l'éditeur de cet ouvrage?
Les éditions du Rocher.
Merci de votre présence, docteur Daniel Simeka, sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Vous soyez sur la route avec l'appli E1 ou encore sur europe1.fr. Vous écoutez Wendy Bouchard jusqu'à 20h. C'est votre grand journal du soir sur Europe 1.
Voici Tout roule, le magazine auto d'Europe 1, chaque dimanche avec vous Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. À la une de Tout roule, ouf de soulagement, une nouvelle tentative d'assassinat de la voiture a été retoquée. Une semaine au volant de la nouvelle Clio et puis une rencontre avec une voiture dangereuse, la Ford Pinto, qui causa 180 morts.
Pour commencer ce dossier de la semaine, ce projet donc qui viserait à taxer les voitures trop lourdes, projet retoqué par les députés.
Oui, par les députés, une bonne partie du gouvernement et le rapporteur lui-même. C'est dire, il faut dire quand même que les syndicats, le CNPA, la filière, tout le monde est allé vent debout. La nouvelle taxe s'ajoutant au bonus-malus visait à impacter le poids des voitures et donc les SUV en premier lieu, qui pourtant
aussi,
voilà, sont de plus en plus des voitures familiales que des faire-valoir comme les gros 4x4. Mm-hmm. Les calculs étaient ubuesques, on a arriver à des surcoûts de plusieurs milliers d'euros sur des voitures populaires comme la 3008 ou le Grand Scénic. Projet donc enterré pour l'instant jusqu'à ce que l'amendement revienne en séance publique.
Les autres news de la semaine avec vous, Pierre de Villeneuve.
619 salariés de Michelin abasourdis, l'usine de pneus de camion de La Roche-sur-Yon va fermer. La marque a de la peine à faire face à la concurrence asiatique. Les toutes premières photos de la Golf 8 ont filtré dans la presse. À l'extérieur, changement dans la continuité, traduisait. Faut vraiment avoir l'œil pour faire la différence avec la Golf 7. Mais à l'intérieur, un tableau de bord avec un long bandeau tactile et une instrumentation numérique. Emmanuel Macron aime les voitures. Le budget de l'Elysée grimpe de 600 000 euros en 2020 et va servir en partie, nous dit-on, à renouveler le parc automobile.
On passe à l'essai de la semaine avec vous, c'est la nouvelle Clio de chez Renault.
Oui, la voiture la plus vendue en France. Qu'est-ce qu'elle vaut cette Clio 5? D'abord, comme je vous le disais en juin, lorsqu'on l'a vue pour la première fois, l'extérieur ne change pratiquement pas, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il y a plus de place, notamment à l'arrière pour les jambes. Il y a ce cockpit tourné vers le conducteur et tout cela est vraiment très agréable. J'ai testé la version 1,3 litre essence 130 chevaux. Le moteur est agréable, il est punchy, il est peu gourmand, mais alors la boîte automatique EDC, c'est complètement raté. Elle n'est pas du tout réactive, elle est lente, elle ne prend pas en compte les changements de régime. Souvent, elle vous rétrograde sans raison, ce qui fait que le moteur passe très très vite dans les tours. Alors oui, achetez cette nouvelle Clio, elle est très bien finie, elle est très agréable à conduire, mais choisissez plutôt la boîte manuelle.
Pas convaincu par l'automatique. Un insolite, une histoire chaque semaine, Pierre de Villeneuve. Et aujourd'hui, on rencontre une voiture dangereuse.
Il y en a eu des 11 septembre aux États-Unis et le 11 septembre 1970, Ford déclare la guerre aux petites japonaises qui envahissent le marché et présente la Ford Pinto. Petite compacte avec un air de pauvrette. Et en effet, Ford accouche d'une enfant handicapée. Cette voiture a un réservoir tellement mal conçu que si vous percutez une Ford Pinto par l'arrière, elle explose. Oh là là. Et vous avec. Vous pouvez voir ça sur YouTube, c'est totalement impressionnant. Pendant 10 ans, Ford a écoulé 3 millions de Ford Pinto. Pendant 10 ans, 180 personnes sont mortes. 180 gravement brûlés, 7000 véhicules entièrement carbonisés, car Ford a fait son petit calcul. 50 millions de dollars pour indemniser les victimes tout en continuant la production, 150 millions pour rappeler l'intégralité
quelle
des
horreur,
véhicules et faire le changement. Pierre Orcade, avocat spécialisé en droit américain, nous dit que cette affaire a tout changé en matière de dommages-intérêts.
Oui, parce qu'à l'époque, ce qui a frappé les commentateurs, c'est que les dommages-intérêts qui ont été accordés aux... Il y a eu deux gros procès et il y a eu des dommages et intérêts considérables. C'était assez nouveau même pour les États-Unis à l'époque. Et ça a créé un précédent dans ces affaires de consommation, en fait. Après, ça a été réduit en appel, mais il y a eu des condamnations à plus de 120 millions de dollars.
Voilà, le cynisme des dirigeants de Ford de l'époque qui a fini par être puni de procès et... au final, le rappel des Ford Pinto.
Eh oui, donc elle restera dans les annales pour ce drame, Ford Pinto. Merci Pierre de Villeneuve, c'était Tout Roule, le magazine de l'auto. On se retrouve dimanche prochain et vous, chers amis, aux commandes du journal de midi.
Merci
demain.
Wendy.
À suivre sur Europe 1, une chanson dans la tête, Wendy.
Une chanson avec plusieurs. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Avec un poète à la une, spécial Renaud. Car vous avez entre les mains le dernier ouvrage de Fabien Lecoeuvre, La véritable histoire des chansons de Renaud chez Hugo et Images. Oui. On en parle, il est sorti, il est tout frais. Hein.
Oh oui, hier, bon, bah avant-hier. Voilà. Avant-hier.
Bougez pas, on revient avec Renaud et ses grands titres.
Il est 18h50, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Et maintenant, Wendy Bouchard, c'est l'heure d'une chanson dans la tête, notre rendez-vous musical avec Fabien Lecoeuvre.
L'un des plus grands spécialistes de la chanson française, vous avez sorti vendredi un livre formidable sur Renaud, l'histoire de ses chansons les plus vibrantes, comme celle du Retour, il y a 3 ans.
Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré.
Le phénix Renaud, ouais. Que vous connaissez bien, Fabien.
Oui, il se trouve que quand il a enregistré d'ailleurs Toujours Debout à Bruxelles au studio ICP, j'étais en studio d'à côté, moi avec Michel Polnareff. Il enregistrait juste, il est resté 3 mois, Polnareff 19 mois. Mais je dois dire que. Non, mais c'est cet impertinent loubard finalement s'est transformé aujourd'hui en merveilleux observateur, ou en pertinent. Corrosif observateur, oui, on peut le dire.
C'est un poète, Renaud, qu'on adore, puis, qui fait partie de notre patrimoine, et la véritable histoire des chansons a plus qu'un sens avec lui.
Oui, vraiment. Et alors surtout, moi je me souviens toujours d'une histoire à la suite d'un déjeuner à la Causerie des Lilas. Il y a une histoire qui a totalement transformé sa vie. C'est-à-dire, il a 10 ans, on est en 1962, Renaud rentre de l'école, il est 17h. Et à ce moment-là, dans le hall de l'immeuble du 14e arrondissement à Paris, où il vit avec ses parents, évidemment, et ses frères et sœurs, il voit Georges Brassens dans le hall de son immeuble, qui lui va voir, au 4e étage, Marie Dormoy. Marie Dormoy, c'est une écrivaine formidable, critique d'art, et qui était la maîtresse de Paul Léoto, évidemment. Et Brassens allait voir cette fille, Marie Dormoy, au 4e. Renaud n'en revient pas, le petit blondinet qu'il est à
le
10 ans.
Le petit marmot.
Oui, il n'en revient pas. Donc il file, il est dans l'ascenseur avec Brassens, vous imaginez, lui qui écoutait la chanson Le Gorille ou La Mauvaise Réputation. Et d'un seul coup, il voit en vrai une espèce de... Pour lui, c'est un Jésus-Christ qu'il voit dans l'ascenseur. Il arrive chez lui, il va dans la discothèque de ses parents, il prend le disque du Gorille, le 25 cm, il monte les escaliers 4 à 4, il arrive devant le 4e étage, la porte de Marie Dormoy. Et il lui fait signer son disque.
Magnifique.
Ce disque, il l'a toujours gardé. Et quand il est dans son bureau, et il me dit qu'à chaque fois que je vois cette pochette de disque de Brassens...
Il a 10 ans.
J'ai 10 ans et surtout, je sens encore l'odeur du tabac de la pipe de Brassens.
Ah, ça c'est beau. Son maître a chanté, Brassens.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, ses commères lorgnaient même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille.
Renaud qui voit un album entier au maître Brassens.
Qui est fasciné par Brassens. Alors il était fasciné par les textes évidemment aussi de son père, Olivier Séchant, qui était un bel auteur aussi, le papa de Renaud, on oublie de le rappeler. Mais Brassens a été un révélateur.
Une admiration qui va le guider toute sa vie. C'est une fidélité d'ailleurs qui lui ressemble. Lui qui a contribué, cher Fabien, on va y venir, à remettre dans le vent le verlan lèche-béton.
Lèche-béton. Il m'a filé une beigne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles.
Chanson écrite sur un paquet de gitanes.
Ah oui, sur un paquet de gitanes. Wendy, on est en juin 1977. Et Renaud vient de sortir un album qui a déjà 18 mois à peu près. Puis ça ne marche pas plus que ça, puisqu'il est habillé en gavroche avec une casquette, des vestes à carreaux et des pantalons de velours. Ça ne marche pas. Donc il emprunte, grâce d'ailleurs au frère d'une de ses petites amies de l'époque, il emprunte la tenue de Loubar avec le perfecto et le célèbre bandana. Et puis il passe, il chante le soir comme ça à la Pizza du Marais, un quartier de Paris. Et puis avant de passer, il a l'idée d'écrire l'histoire d'un loubar, tout simplement, à qui il arriverait des mésaventures quand il tombe sur des gens plus forts que lui. Il écrit ça, tenez-vous bien, en 25 minutes. Il écrit son texte. Comme il n'a rien pour écrire, il prend tout simplement l'intérieur de son paquet de gitane. À partir de là, il fait une musique et c'est cette chanson qui le révélera, bien sûr, au public. Elle se vendra qu'à 300 000, il ne fera pas le disque d'or
mais
encore.
Mais premier grand tube quand même.
Mais c'est le premier, la chanson avec laquelle on va l'identifier en tout cas.
On est en 1977, Renaud, ce sont les histoires de la vie, chers amis, de mon beauf à mon HLM, les cœurs écorchés de Manu à ma gonzesse, la tendresse d'Encloque à la chanson préférée des Français.
À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et au doudou qui nous coupait les lèvres et nous niquait les dents. Et les Mistral gagnants.
Là, on est en 1985, Mistral gagnant, chef-d'œuvre absolu de la carrière de Renaud. Une chanson qui n'a failli finalement jamais être enregistrée par le chanteur, car on est en 1985, il est aux États-Unis. Il y a 9 heures de décalage horaire. Sa femme, Dominique, à l'époque, et sa fille sont restées en France. Et puis, il manquait une plage sur un disque, tout simplement. Il vient de changer de maison de disque, Renaud. Il a quitté Polydor pour embrasser maintenant Virgin. Et puis, il manque, je ne sais pas, 3-4 minutes sur un vinyle. On est encore à l'époque du vinyle. Et puis, il fait une petite chanson. Il se met dans le coin du studio à la guitare.
Le hasard,
il compose à la guitare. Mistral gagnant. Il écrit son petit texte comme ça au dos d'une partition. Il appelle son épouse. Avec les 9 heures de décalage horaire, elle lui dit « Voilà, j'ai remplacé, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce qu'au-delà d'être son épouse, c'est la femme qui a été très importante dans l'existence, évidemment, Dominique. Et elle tombe, quand elle entend les premières notes de la chanson, etc. Elle tombe à la guitare, et lui, il fait la voix, comme ça, au téléphone. Et elle lui dit « Je te préviens, si tu ne mets pas cette chanson... » Parce que Renaud, évidemment, il doutait, il disait « Non, je sais pas, c'est trop intime, cette chanson, je raconte trop ma vie. »
C'est très intime.
C'est très intime, bien sûr. Et elle lui dit « Je te préviens, si tu mets pas cette chanson, je te quitte. » Et donc là, il était obligé de la mettre. Et,
bravo et Dominique
pour le bonheur de millions de Français qui ont plébiscité cette chanson. Et je dois dire, les notes
chanson
de piano...
Chanson préférée des Français.
C'est Jean-Philippe Gould, parce que ça change tout.
Ça change tout, et elle est restée dans les têtes pour
elle
ça.
Elle est restée... Aussi. Quand vous entendez ces notes de piano de Jean-Philippe Gould, c'est un chef-d'œuvre.
Fabien Lecoeur avec la véritable histoire des chansons de Renaud chez Hugo Image, livre qui vient de sortir. Vous nous révélez, par exemple, on est dans l'ombre de Tonton, le lien fort qui unissait Mitterrand, au-delà de la politique, Mitterrand et Renaud.
Il y avait un secret de famille, car tenez-vous bien, ça, peu de gens le savent. Alors, vous savez que Renaud avait une très grande admiration pour François Mitterrand. D'abord, il l'a soutenu en 81, il l'a rencontré véritablement en janvier 82, lorsqu'il inaugure le Zénith à Paris. Mais surtout, il y avait un secret qui liait. Le secret, c'est que la sœur du père de Renaud, qui s'appelait Madeleine Séchant, qui est obstétricienne, c'est elle qui accouchera Anne Pinjot
de
Mazarine Pinjot le 18 décembre 1974. Tout ça a été resté secret parce que c'était une liaison absolument hors mariage, évidemment, avec le président, le futur président Mitterrand.
On est en 2002 maintenant, une chanson culte.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel.
Trois trophées aux Victoires de la Musique en 2003. C'est une des chansons de la Renaissance.
Oui, évidemment.
Des multiples renaissances de
Renaud. C'est une chronique poignante de vérité, en tout cas pour l'actualité, puisque suite aux attentats du World Trade Center, il demandera à Axel Red de lui donner la réplique. Il ne se sentait pas tout seul capable, en tout cas, d'affronter cette analyse de la politique et de l'actualité.
Et puis 16e album pour terminer avec Le Phénix.
J'ai embrassé un fric entre nation et république. J'ai embrassé un fric, ça change des coups de tri.
Réaction aussi à l'actualité, ouais, chanson magnifique après les attentats de Paris.
On lui a reproché cette chanson, on dit comment Renaud, qui est issu des combats de mai 68, comment peut-il maintenant embrasser un flic, etc. Et Renaud avait répondu, mais vous savez, avec les cons qui ne changent pas d'avis.
C'est un génie Renaud, on l'adore, s'il nous écoute, on l'embrasse. Et on attend son prochain album, Les Marmots et les Enfants d'abord.
Absolument Wendy.
Merci et bravo pour cet ouvrage qui nous dit beaucoup aussi de la patte du maître Fabien Lecoeuvre.
Ça me donne envie de réécouter Mort les Enfants sur l'album justement où on trouve Mistral gagnant qui est magnifique.
Bon, je vous offrirai le livre si vous êtes chargé.
Ah, c'est gentil.
À tout de suite.
Europe 1, le grand journal du soir. Europe 1, le grand journal du soir.
Merci d'être à l'écoute de votre grand journal sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h. Voici les grands titres de l'info de ce 13 octobre. Le journal avec vous, Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
19h.
Ça ne peut pas continuer comme ça. On se dit non, plus jamais. Et je ne veux surtout pas que ça n'arrive ni à mon fils, ni au fils des autres mamans.
Une semaine après la mort de Kevin, 1 millier de personnes a défilé aujourd'hui au Lila pour saluer la mémoire de l'adolescent, également pour réclamer plus d'actions contre les violences en milieu scolaire.
Agnès Buzyn était l'invitée d'Europe 1 ce matin. La ministre de la Santé demande à ses équipes d'ouvrir le dossier des rémunérations à l'hôpital.
Clairement, je pense qu'il y a un problème de rémunération si l'on veut rendre de nouveau l'hôpital attractif.
Les Tunisiens ont voté aujourd'hui pour choisir leur président à second tour, à suspense avec 2 candidats anti-système.
On doit y arriver. Vous avez mis je ne sais pas combien d'années, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas combien d'années. On essaie de créer cette démocratie.
Des inondations, des glissements de terrain, des habitants pris au piège dans leur maison après le passage du typhon Agibis au Japon. Une course contre la montre est engagée pour sauver la population. Nous serons évidemment à Tokyo dans ce journal. Vous êtes sur Europe 1, bienvenue jusqu'à 20h.
Europe 1.
Et beaucoup d'émotions pour commencer ce matin en région parisienne. Sophie Tussaud, une semaine après la mort de Kevin, ce lycéen de 15 ans poignardé en marge d'un cours de sport.
1 millier de personnes a participé à une marche blanche entre le Pré Saint-Gervais et les Lilas pour inciter les pouvoirs publics à agir davantage contre les violences en milieu scolaire. Jean-Gabriel Bourgeois.
Il faut que Kevin soit le dernier enfant que nous perdions.
Une prise de conscience, c'est ce que réclame le cousin de Kevin devant les participants à cette marche silencieuse, à l'endroit même où l'adolescent s'est fait poignarder. Kevin est le porte-voix d'une famille bouleversée.
Tes rêves sont restés inachevés. Inachevés car on t'a volé la vie. Combien d'enfants encore doivent mourir pour que les pouvoirs publics agissent enfin ?
Plus jamais ça, entend-on dans le cortège, des parents en colère, des profs émus, des camarades aux yeux rougis, le visage de leurs copains sur le t-shirt. Une bougie ou une rose blanche à la main, ils n'arrivent toujours pas à croire que Kevin n'est plus là.
Normalement, à 15 ans, on ne doit pas perdre la vie pour avoir voulu défendre un proche.
Je ne veux pas reperdre encore des amis. J'en ai perdu 2 déjà, ça fait trop.
C'est en effet un deuxième drame en quelques mois, ça suffit pour Nawel. Son fils connaissait Kevin et Aboubakar, l'adolescent tué il y a tout juste 1 an.
C'est tous les ans un enfant qui part et ça ne peut pas continuer comme ça. On se dit non, plus jamais et je ne veux surtout pas que ça n'arrive ni à mon fils, ni au fils des autres mamans. Ça ne doit plus arriver, plus jamais.
Mais tous craignent aujourd'hui des représailles dans ces quartiers théâtres de violences incessantes.
Jean-Gabriel Bourgeois, au Lila pour Europe 1.
La France inquiète ce soir, inquiète après l'annonce des Kurdes au cours de l'offensive turque sur le nord de la Syrie. 800 étrangers, femmes et enfants de djihadistes du groupe État islamiste se sont échappés d'un camp de déplacés.
Le président Erdogan, lui, reste déterminé à poursuivre son offensive et affirme que les embargos sur les ventes d'armes à la Turquie ne suffiront pas à le stopper. Au moins 26 civils ont été tués aujourd'hui, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et ce, lors d'un raid de l'aviation turque qui a touché un convoi de civils et de journalistes. Cela fait maintenant bientôt 7 mois que les urgences sont en crise. Pour réclamer plus de moyens et des conditions décentes de travail, Agnès Buzyn était ce matin l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews. Les Échos, la ministre de la Santé indique être en train de travailler sur les salaires en milieu hospitalier.
Il faut tenir compte de la rémunération directe, mais aussi de tout ce qui est indirect, le temps de travail, la rémunération des gardes, etc. J'ai demandé à mes équipes d'ouvrir ce dossier, notamment pour les débuts de carrière, que ce soit des médecins et des infirmiers. Parce que c'est vraiment trop difficile aujourd'hui. Et puis sur les deuxièmes parties de carrière, comment aussi valoriser, donner de l'espoir, des perspectives à un certain nombre de professions paramédicales. Je pense aux infirmières, aux aides-soignantes. Ce travail doit s'engager et clairement, je pense qu'il y a un problème de rémunération si l'on veut rendre de nouveau l'hôpital attractif.
Agnès Buzyn lors du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Une déclaration qui fait bondir. Écoutez Anne-Claire, qui est infirmière au Kremlin-Bicêtre et membre du collectif Inter-Urgence. Plus que des paroles, elle demande maintenant des actes.
Elle a mis 4 mois avant de répondre aux paramédicaux. Au début, elle nous a pas très peu parlé, je dirais même méprisé. Puis elle a fini par comprendre qu'il y avait un réel problème. Et là, aujourd'hui, elle vient enfin de dire qu'il fallait une rémunération plus élevée pour les personnels paramédicaux. On va dans le bon sens, mais très, très lentement. Il y a beaucoup de personnes déjà qui n'en peuvent plus et qui souhaitent partir. Si elle ne veut pas avoir des services désertés, bah, il va falloir se dépêcher. Ça passe encore par un énième groupe de travail. Au bout d'un moment, on ne va pas y arriver. On va arriver dans des délais pas possibles. Et je ne pense pas que l'hôpital public puisse attendre des réformes dans 4-5 ans. Ce sera trop tard.
Anne-Claire, membre du collectif Inter-Urgence. En Corse, un cargo s'est échoué la nuit dernière dans la réserve naturelle de Bonifacio. Le navire de 90 mètres de long n'a pas viré à temps malgré les appels des gardes-côtes et a poursuivi sa route. Il transporte des bobines d'acier.
Un accident qui n'a pas entraîné de pollution, pour l'instant du moins. Pour Jean-Michel Cuglioli, le directeur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, la catastrophe a été évitée de justesse.
Le bateau est toujours sur zone, tanké sur la côte de Calalong. La réserve elle-même est située dans une zone maritime particulièrement vulnérable. C'est une zone très compliquée parce que c'est un détroit qui ne fait que 12 km avec des archipels. C'est une zone qui est extrêmement riche du point de vue de la biodiversité. Elle est aujourd'hui classée en zone maritime particulièrement vulnérable par l'Organisation maritime internationale, ce qui fait quand même qu'on est quand même un peu abasourdi de voir qu'un bateau puisse à 3 heures du matin rentrer dans les Bouches de Bonifacio et ne pas du tout être attentif. Un bateau qui transporte quand même du gasoil, qui transporte potentiellement d'autres matières. Là, c'est des bobines de fil, ça peut être du pétrole, ça peut être des matières dangereuses. Vraiment, on est passé pas loin d'une catastrophe.
Jean-Michel Cuglioli, directeur de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, répondait à Sophie Echen pour Europe 1 et le navire devrait être remis à flot dans les prochains jours.
Il est 19h07, la suite du journal sur Europe 1, Sophie Tussaud, Wendy Bouchard.
On prend la direction à présent de la Tunisie où s'est tenu aujourd'hui le second tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui oppose deux candidats anti-système, Nabil Karoui d'un côté, magnat des médias, poursuivi pour fraude fiscale, et Kais Saied, enseignant de droit constitutionnel.
Et à 15h30, la participation était de 39,2%, soit 11 points de plus que lors du premier tour. Les bureaux de vote à présent viennent de fermer. Mathieu Bock, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tunis. Même si certains regrettent le choix à faire pour ce deuxième tour, les électeurs que vous avez rencontrés étaient contents d'accomplir leur devoir civique.
Oui, pour ceux qui sont venus voter, le moment est historique. Certains se prennent en selfie pour garder un souvenir, comme Ali qui tient son fils par la main.
C'est la première fois qu'on va voter une vote libre, démocratique. Je le montre pour mon fils parce que c'est un jour inoubliable. Le 13 octobre 2019, c'est un transfert d'une dictatorie, d'une trichesse, des mafias pour des hommes libres, des hommes qui ont des principes.
Venu en groupe avec des amis, Mohamed exhibe fièrement son doigt marqué à l'encre, preuve qu'il a voté. Ce retraité croit en cette élection.
On doit y arriver. Vous avez mis je ne sais pas combien d'années, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas combien d'années. Nous, on est jeunes encore. On est à 9 ans, 10 ans, on était sous, vous savez, un président qui... On essaie de créer cette démocratie.
Mais une chose saute aux yeux, les jeunes se font rares dans les bureaux de vote. Une erreur, selon Wassim, 22 ans.
C'est notre futur, c'est pas le futur du plus âgé, c'est le futur des jeunes. Alors on doit faire les sélections.
Alors les bureaux de vote ont fermé il y a quelques minutes. Les premiers sondages sont attendus dans la soirée. Mais les résultats définitifs, eux, devraient être connus en début de semaine seulement.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Tunis.
Le puissant typhon Agibis a semé l'horreur, Sophie Tussaud, au Japon. Des maisons emportées par les eaux et des habitants piégés par les inondations.
Les pluies diluviennes ont entraîné des glissements de terrain également. 110 000 secouristes ont été dépêchés sur le terrain pour venir en aide à la population à Tokyo. Simon Rubin pour Europe 1.
Nous sommes tous engagés dans une course contre la montre. Voilà ce que vient de déclarer le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Alors que des opérations de secours ont lieu un peu partout dans le pays, il faut sauver toutes les personnes en danger avant que leur refuge ne s'effondre. En ce moment, dans la région de Nagano, notamment au centre du pays, c'est un balai incessant d'hélicoptères et de bateaux qui sillonnent les villes et villages en partie submergés. Les habitants trouvent refuge sur les toits, sur les balcons. Certains attendent depuis bientôt 24 heures. Sur l'ensemble du territoire japonais, 21 cours d'eau ont débordé de leurs lits suite au typhon. Les policiers et pompiers du pays, ainsi que 27 4000 militaires sont mobilisés. À l'heure actuelle, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Le réseau ferroviaire est fortement endommagé. Plusieurs trains à très grande vitesse ont été submergés. Et 18 personnes sont toujours portées disparues. Tokyo, Simon Rubin, Europe 1.
Retour en France, à l'est de Narbonne, où des archéologues ont fait une découverte exceptionnelle.
Une nécropole antique, un cimetière du 1er siècle de notre ère. Narbonne était, il y a 2000 ans, l'un des plus grands ports de Méditerranée. 1000 tombes miraculeusement préservées ont été mises à jour lors d'Autriche.
C'est une chance inouïe dans sa carrière de passer sur une fouille de cette importance-là.
Il faut creuser à 2,50 m de profondeur. 400 tombes ont déjà été mises au jour. Ici sont enterrés des esclaves, mais aussi beaucoup d'esclaves affranchis au niveau de vie plus élevé. Ce qui le prouve, c'est leur tombe. On y a trouvé des fioles de parfum, des bijoux en or, de la vaisselle en verre. Et à l'extérieur aussi, ces tombes sont intéressantes, explique Valérie Bell, la responsable scientifique.
Nous avons de petits monuments, des plaques funéraires en marbre, donc de qualité. En général, ils exercent des activités économiques, par exemple responsable de la conduite d'un domaine, ou travailler aussi dans le monde de la boutique, du commerce.
Et le plus étonnant, précise Jérôme Hernandez, archéologue à l'INRAP, c'est que sur chaque tombe, des tuyaux ont été fabriqués avec des morceaux d'amphore en terre cuite pour garder un contact avec le défunt.
On vient régulièrement sur la tombe et on va partager le vin, on va partager un repas funéraire. Alors c'est pas tant de nourrir le défunt que la volonté de perpétuer sa mémoire.
30 archéologues vont fouiller ce site exceptionnel jusqu'à l'été prochain, avant que ne soient construits ici des immeubles d'habitation.
C'était les explications de Laure d'Autriche et cette découverte d'ailleurs aussi.
Merci Sophie Tussaud, à tout à l'heure pour vous informer.
Augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo.
Et le temps qui nous attend demain donc, Valérie Darmon.
Eh bien dans le nord-ouest, en Bretagne, en Normandie et sur les Pays de la Loire, c'est une journée sous la pluie. Dans l'est, le temps est à nouveau contrasté entre les Hauts-de-France où vous passerez la journée sous la pluie, la Champagne, les Ardennes où vous avez un ciel plus variable, parfois menaçant, et le Grand Est où vous continuez à bénéficier d'un fort, grand et beau soleil ainsi que de la chaleur qui va avec. Retour en région parisienne en revanche de la pluie et de la fraîcheur. D'ailleurs, les deux arrivent en ce moment même. Le vent du sud devient de plus en plus fort, soufflant jusqu'à 80 km/h le soir entre le Lyonnais et les hauteurs du Massif central. Et dans le sud-ouest, le soleil d'aujourd'hui laisse la place aux nuages avec quelques pluies près de l'Atlantique alors que les éclaircies résistent en Midi-Pyrénées sous un vent d'autant toujours à 90 km/h. Sur le sud de l'Aquitaine et en Limousin, en revanche, forte pluie annoncée dans la soirée de ce lundi. Et elles vont prendre un caractère orageux avec un risque de chute de grêle.
Merci Valérie Darmon. Place maintenant au Journal des Sports, Wendy Bouchard.
Avec vous, Christophe Lamar, et du foot à la une pour battre la Turquie, se qualifier pour l'Euro, mais surtout pour oublier le contexte. La mission s'annonce très très compliquée pour l'équipe de France demain, Christophe.
C'est un match attendu et sous haute tension que s'apprêtent à disputer les Bleus d'Enghien-les-Bains où ils sont installés. Ils sont à l'abri de tout, de ce qui se dit, de ce qui se fait et du contexte international, de l'intervention de l'armée turque dans le nord de la Syrie, du bombardement des Kurdes, des manifestations de réprobation ou de soutien. 40 000 supporters turcs sont attendus demain soir au Stade de France. Du côté des autorités, on craint les débordements. Le capitaine Raphaël Varane le sait, mais lui ne pense qu'à une chose, gagner et se qualifier.
On s'attend à beaucoup de supporters turcs, mais on est des joueurs de haut niveau, on a l'habitude de jouer dans des contextes différents. C'est le genre d'ambiance qui, bien sûr, nous motive, peut nous transcender. Nous, on veut faire un grand match de football, on veut essayer de donner du plaisir à nos supporters. Et bien sûr, l'objectif numéro un de se qualifier. Donc voilà, pour nous, c'est une belle opportunité dans ce sens-là.
Raphaël Varane au micro de Cyril de la Morinerie.
En tennis, ce n'est peut-être pas le joueur de l'année, mais c'est sans doute celui de la fin d'année.
Oui, Daniil Medvedev remporte le Masters 1000 de Shanghai. C'est le quatrième titre cette année. À 23 ans, le Russe incarne lui aussi la relève. Et pour l'ancien tennisman Paul-Henri Mathieu, c'est le joueur en forme de cette fin de saison.
C'est l'homme de la saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est l'homme de la deuxième partie de saison. Depuis la tournée américaine, il me semble, à 45 victoires. Hein, c'est quelque chose d'assez hallucinant. Sixième finale d'affilée, troisième titre, deuxième en Master 1000. Il enchaîne vraiment son nouveau statut et les étapes avec une facilité assez déconcertante. Donc oui, il est vraiment impressionnant. Hein.
Paul-Henri Mathieu avec Alban Le Poir.
Le reste de l'actu sportive.
Le top 14 de rugby, victoire importante du Stade français sur Toulon, 33-30. Un succès qui va amener un peu de sérénité, mais qui n'est pas suffisant pour s'extraire du fond du classement. Les Parisiens sont toujours lanterne rouge. Le basket avec la quatrième journée de Pro A, l'ASVEL s'installe dans le haut du classement après son succès sur Dijon, 79-70. Les Villeurbanais restent invaincus en championnat. Et puis la Formule 1, Mercedes triomphe à Suzuka, la victoire pour Valtteri Bottas qui devance Sébastien Vettel sur Ferrari et Lewis Hamilton. Mercedes s'offre un 6e titre consécutif en tant que constructeur. Il reste encore 4 courses à disputer, mais on sait déjà que le titre de champion du monde des pilotes se jouera au sein de l'écurie allemande entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. C'est dire la suprématie des flèches d'argent cette saison.
Merci Christophe Lamar. À 20h, Europe 1 Sport, on retrouve l'ami Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Wendy.
Et un invité exceptionnel ce soir.
En effet, Luis Fernandez, invité exceptionnel des auditrices et des auditeurs d'Europe 1. Il parle de l'équipe de France d'aujourd'hui, de l'équipe de France d'hier, de tous les sujets brûlants de l'actualité du football, mais surtout du Paris Saint-Germain, son club de toujours, et notamment de l'entraîneur allemand actuel du PSG qu'il ne porte pas forcément dans son cœur. Il ne prononce jamais son nom. Il s'agit de Thomas Tuchel. Je vous propose d'écouter un extrait de Luis Fernandez qu'on retrouvera ce soir.
J'aimerais que cet entraîneur puisse réussir avec cet effectif qu'il a, qui puisse aller le plus loin possible dans cette compétition qui est la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on attend ça avec impatience. Il arrive d'Allemagne, avec ses qualités et ses défauts. Je connais un bon entraîneur allemand, c'est Jürgen Klopp. Ça, c'est un entraîneur qui a fait progresser son équipe. Surtout quand tu as les moyens, quand on te donne les moyens que tu as, fais-la grandir, fais-la progresser. La saison dernière, c'est un entraîneur qui gagne le championnat, mais qui ne gagne pas ni la Coupe de France, ni la Coupe de la Ligue. Est-ce que Ancelotti ou Unai ou Laurent Blanc, ils les ont gagnés ces compétitions.
C'est à suivre à partir de 20h dans Europe 1 Sport avec vous et donc Luis Fernandez face aux auditeurs. Merci Lionel Rousseau.
Et dans un instant, Wendy, on revient sur les affrontements en Syrie.
Alors qu'on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron réunit ce soir un conseil restreint de défense sur la situation en Syrie. On attend tout de suite l'analyse de notre invité Frédéric Ancel.
Europe 1, le grand journal du soir. Europe 1. 19h18, la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Dans l'actualité de ce dimanche 13 octobre, Wendy Bouchard, une situation brûlante en Syrie. Nos reporters en témoignent depuis plusieurs heures sur Europe 1.
Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Merci de votre analyse que l'on attend sur l'antenne d'Europe 1. Vous qui êtes docteur en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. On apprend il y a quelques instants qu'Emmanuel Macron va donc réunir ce soir à l'Élysée un conseil restreint de défense, signe de l'extrême urgence et de la situation tendue, terrible, qui se joue dans le nord syrien en ce moment.
Oui, et c'est très bien vu de la part du président pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un risque de déstabilisation de l'ensemble de la région. Hein. Ça, c'est le premier point. Or, nous avons encore plusieurs centaines d'hommes dans la région et beaucoup de matériel. Ça, c'est un point très important. Et puis, le deuxième, c'est évidemment la menace du retour des centaines de terroristes islamistes radicaux qui ont été capturés par les forces kurdes, dont je rappelle quand même que c'était les seuls sur le terrain à avoir osé combattre de manière permanente l'ennemi absolu qui était Daesh. Eh bien, ces gens-là peuvent maintenant tenter de revenir dans leurs états d'origine, et beaucoup sont d'origine européenne et certains sont d'origine française.
Absolument. La France qui s'inquiétait hier encore de la capacité des Kurdes livrés aux Turcs, et on va le redire, à combattre de front et à pouvoir contenir les djihadistes. Ces inquiétudes qui étaient donc bien fondées parce qu'on a appris que 800 familles proches de djihadistes étrangers du groupe État islamique auraient fui un camp de déplacés au nord de la Syrie. Ce n'est que le début pour vous, Frédéric Ancel?
Ah oui, ça c'est que le début, bien sûr, parce que d'abord, il y a plusieurs milliers, non pas plusieurs centaines, de prisonniers islamistes de manière générale, d'une part. D'autre part, parce que l'offensive turque, elle ne va pas s'arrêter demain, pour une raison simple, c'est que les Kurdes résistent. Et ils ont appris ces dernières années, face à un ennemi aussi implacable que l'État islamique, à résister. Et puis, ils sont mieux dotés en armement. Donc, il risque d'y avoir un enlisement turc dans la région. Or, la puissance turque, et en particulier le président Erdogan, ne peut pas se permettre un enlisement vis-à-vis de son opinion publique. Donc, ça risque effectivement, de frapper davantage encore ces prochaines semaines. Et par conséquent, oui, bien sûr, il y a des risques supplémentaires encore sur les camps de qui sont tenus par les Kurdes et qui sont peuplés de terroristes de Daesh.
Frédéric Ancel, comme l'histoire est un peu complexe, je voudrais qu'en quelques secondes, on imagine ensemble en ce moment la poudrière ce soir dans le nord syrien. On a des populations kurdes qui habitent cette bande de 100 km, on est à la frontière turque, et qui ont été les alliés du monde libre. On le redit, des Américains, ils nous ont aidés à contenir Daesh et les terroristes sur place. La Turquie veut aujourd'hui récupérer ces territoires en enlevant ses troupes sur place. Trump a donné un blanc-seing quelque part au régime d'Erdogan.
Trump a démontré une fois de plus son inconséquence et son irresponsabilité. J'emploie des termes forts, mais je les emploie à escient. Ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pratiquement tout le monde le reconnaît, et notamment en Occident, mais pas seulement. Ensuite, donc il ne s'agit pas seulement d'un abandon moral, c'est une faute tactique et stratégique extrêmement grave. Ensuite, vous dites à juste titre, la Turquie veut récupérer, mais pardon, ça n'appartient pas à la Turquie. C'est-à-dire qu'on a là une visée expansionniste extrêmement claire, au-delà, par-delà de la frontière Turque qui, elle, est tout à fait légale et légitime. Et le problème de la Turquie, c'est son cauchemar géopolitique, c'est-à-dire que le pouvoir nationaliste ou islamo-nationaliste aujourd'hui craint comme la peste la création à terme d'une conscience nationale kurde et éventuellement d'un État kurde. Pourquoi ? Parce que dans les frontières même de la Turquie, il y a environ 20 millions de Kurdes qui pourraient un jour se prendre à vouloir créer une grande entité kurde avec leurs frères qui habitent en Irak, en Syrie et donc bien évidemment en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie.
Indépendante ou autonome, cette communauté, vous parlez de conquête, Frédéric Ancel, ça passe aussi éventuellement par une épuration ?
Ah ben c'est ce qui est en train de se jouer, parce que si les Turcs cherchent à chasser les Kurdes de ce territoire pour y placer ou pour y fixer, appelez ça comme vous voulez, 2 à 3 millions de réfugiés syriens, donc pour l'essentiel des Arabes, c'est très exactement ce qu'on appellera une épuration ethnique en droit international. C'est extrêmement grave, c'est des crimes de guerre et potentiellement des crimes contre l'humanité.
Voilà pourquoi, à l'instant, Emmanuel Macron parle d'une situation humanitaire insoutenable. Quel devoir moral engage la France vis-à-vis de la Syrie et dans les actes que peut faire notre pays, Frédéric Ancel ?
Alors, en tout cas, vis-à-vis des Kurdes, parce que la Syrie, c'est, si vous voulez, le problème, et vous mettez bien le doigt dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un État, à la Syrie, dirigé par un dictateur sanguinaire, Bachar el-Assad, qui a réussi à rester au pouvoir grâce à la Russie et à l'Iran. Et là, en ce moment, ça se joue, j'allais dire, en dépit de sa volonté. De toute façon, ses troupes ne sont pas actuellement sur ce théâtre d'opération. En revanche,
Damas envoie des troupes à l'instant, face à l'offensive turque. On l'apprend d'un média d'État.
Alors c'est ça. Moi, je pense que la France, en tant qu'elle a pris la tête politique et militaire d'ailleurs d'une Union européenne, puisque les Allemands ne le veulent pas et les Britanniques s'en vont. Donc la France, qui joue un rôle très important du Mali à l'Afghanistan ces dernières années pratiquement, dans cette espèce de grand arc de crise, et notamment au Proche-Orient, a un rôle fondamental à jouer. Alors ça peut passer par l'envoi effectivement de plusieurs centaines d'hommes supplémentaires pour bien signifier à la Turquie qu'elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle veut dans la région, d'une part, et d'autre part, ça peut passer par des mesures de rétorsion économiques et commerciales. Souvenons-nous de ce qui s'était passé face à Vladimir Poutine il y a quelques années.
Mesure d'embargo, vous entendez.
Annexant indûment la Crimée. Eh bien, après tout, si l'Union européenne réussit à être relativement unie sur cette question-là, on pourrait parfaitement imaginer des mesures de rétorsion économique extrêmement dures contre la Turquie.
Merci Frédéric Ancel d'avoir réagi à cette actualité plus qu'à chaud, alors qu'on apprend il y a quelques minutes qu'Emmanuel Macron réunit ce soir un conseil restreint de défense, car la situation est terrible et dramatique pour les populations kurdes qui se battent aujourd'hui face à l'offensive turque. Merci Frédéric Ancel, et notez que demain matin, Mathieu Béliard recevra dans sa matinale à 7h40 l'ambassadeur de Turquie en France.
Il est 19h24, Wendy Bouchard, voici Planète Sauvage, l'actualité des animaux en 4 minutes sur Europe 1.
Avec à la une l'inauguration du refuge Brigitte Bardot à Bazoches dans les Yvelines, des associations qui demandent la fin des montreurs d'ours et la polémique après l'extermination de pigeons dans la Sarthe.
Et nous partons d'abord dans un parc de 3 hectares dans les Yvelines, à Bazoches, sur Guyane.
Bazoches, propriété privée de Brigitte Bardot, qu'elle décide d'offrir à sa fondation en 2006. Après des années de rénovation, le refuge, qui tourne à plein grâce à 10 salariés et quelques bénévoles, a officiellement ouvert ses portes au public samedi dernier, en présence d'Ariel Dombal, de Dave ou de Raphaël Mesrahi. Bonsoir Charlène Leroux.
Bonsoir.
Vous êtes responsable, Charlène, de ce refuge de Bazoches. Expliquez-nous d'abord le concept que nos auditeurs souhaiteront peut-être découvrir en se rendant sur place, désormais chaque samedi, ce sera possible.
Oui, donc à Bazoches, on trouve des chiens, des chats, des moutons, des cochons, des chèvres et des oies, des canards. Nous avons 2 magnifiques étangs où les animaux, tout ce qui est animaux aquatiques, peuvent vivre paisiblement. Oui, c'est ça.
Tous les animaux qu'on croise, chiens, chats, sont en liberté. Ils ne sont pas enfermés dans des cages, dans des boxes. Ça, c'est pour le coup assez atypique.
Oui, voilà. Les chiens vivent en liberté avec les chats. Donc, on a des chats en liberté totale et des chats pour l'adoption qui sont dans des chatteries avec intérieur chauffé et avec des grands parcs pour sortir dehors, des grandes volières. En fait.
Ah oui, c'est ce qu'on voulait savoir, parce que ce sont des animaux que vous récupérez souvent après des signalements d'abandon, après des situations de maltraitance. Mais tous les animaux qu'on voit à Bazoches sont-ils adoptables, Charlène ?
Tous les animaux ne sont pas adoptables. Les chats sont adoptables. Donc, maintenant, tous les samedis et sur rendez-vous. Et quelques chiens, mais tous les autres animaux restent sur le site, ne sont pas à l'adoption.
D'accord, c'est une seconde vie que vous leur offrez, une sorte de retraite protégée dans ce domaine de Bazoches. Vous qui voulez aussi vous adresser aux enfants, je crois que vous avez vraiment envie de développer la fibre pédagogique, accueillir des élèves notamment.
Oui, tout à fait, puisque le respect des animaux commence par les enfants qui seront les adultes de demain.
Donc. Tous les groupes scolaires aux alentours peuvent donc programmer une visite du refuge de Bazoches avec vous à l'avenir, ça sera possible ?
Oui, tout à fait, en contactant le siège bien sûr, mais oui, on pourra faire des visites pédagogiques, au contraire c'est le but.
À Bazoches, dans les Yvelines, le public accueilli chaque samedi pour les adoptions, on a bien compris, de chats et de quelques chiens. Et le reste du temps, la pédagogie et la transmission à l'ouvrage. Et vous menez le tout, Charlène Leroux, comme responsable du refuge de Bazoches. 700 pensionnaires, c'est quand même quelque chose. Hein. Merci.
Merci.
Et on revient maintenant sur cette info de Victor Dolande sur Europe 1.
Un reportage qui nous entraîne à Sablé-sur-Sarthe, une commune qui compte un pigeon pour 4 habitants. La ville a donc fait appel à un tireur d'élite pour se débarrasser des oiseaux. Indignation de la population.
Moi, je trouve ça un peu dangereux de tirer comme ça sur les pigeons. Il y a des enfants, une balle perdue, ça peut faire mal.
Le trappeur, sujet de conversation numéro 1. Certains habitants ont aperçu sa camionnette. Il opère au lever du jour, s'installe dans les cours des particuliers et vise les pigeons sur les toits avec sa carabine à air comprimé équipée d'une lunette. La Ligue pour la protection des oiseaux, elle, propose d'installer plus de pigeonniers régulateurs de naissance. Et les pigeons, dans tout ça, les survivants se cachent pour roucouler.
En bref, une manifestation à Paris demain pour la cause animale.
Ce sera à 14h, place Saint-Michel, contre les montreurs d'ours. Activité encore légale en France avec des dresseurs pourtant parfois peu scrupuleux. Les manifestants à l'appel d'Aves France ou de Paris Animaux Zoopolis demandent l'interdiction d'une pratique moyenâgeuse auprès d'Elisabeth Borne. Et puis un rendez-vous télé à noter pour vous. Dimanche prochain, 16h sur TF1, la troisième saison de La vie secrète des chats débarque sur l'antenne des TF1 présentée par la vétérinaire Laetitia Barlerin.
Merci Wendy. Après le rappel des titres de l'info, le débrief de l'actu comme chaque dimanche.
Oui, et je suis ravie d'accueillir pour vous ce soir Georges Fenech, ancien magistrat, ex-député, et Bruno Jeudy, journaliste politique et rédacteur en chef à Paris Match. On va revenir évidemment sur cette situation dans le nord syrien pour commencer.
19h30, votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, Wendy Bouchard.
Pour le rappel de l'actualité, on vous écoute, Sophie Tussaud.
Emmanuel Macron réunit ce soir un conseil restreint de défense. 800 proches de djihadistes du groupe État islamique se sont échappés d'un camp de déplacés en Syrie à la suite de l'offensive turque. Une offensive dénoncée par le président qui évoque un risque de situation humanitaire insoutenable. Des larmes et de la douleur, plus d'un millier de personnes a participé à une marche blanche aujourd'hui entre le Pré Saint-Gervais et les Lilas en région parisienne, un hommage à Kevin, un lycéen de 15 ans, tué à coups de couteau la semaine dernière lors d'une rixe. Il n'y a pas de pollution dans la réserve naturelle de Bonifacio en Corse, annonce de la préfecture, après qu'un cargo s'est échoué la nuit dernière. Le navire de 90 mètres de long transporte des bobines d'acier. Le puissant typhon Agibis a dévasté une partie du Japon, des maisons ont été submergées ou emportées par les eaux. Les pluies diluviennes ont entraîné des glissements de terrain, au moins 26 personnes ont été tuées. 110 000 secouristes sont sur le terrain pour venir en aide à la population.
Merci Sophie Tussaud. Europe 1.
Jusqu'à 20h, c'est le débrief de l'actu avec vous, Wendy Bouchard, et vos invités.
Bienvenue en effet dans votre grand journal. Pendant 20 minutes, on va revenir sur les grands sujets de la semaine avec nos invités. Et je suis ravie d'accueillir pour vous éclairer ce soir Georges Fenech, ancien magistrat, ex-député Les Républicains, aujourd'hui consultant. Bonsoir Georges Fenech.
Bonsoir.
Et Bruno Jeudy, journaliste politique et rédacteur en chef à Paris Match.
Bonsoir,
bonsoir
Wendy.
Bonsoir, merci à tous les deux de votre présence. On va revenir sur la situation explosive bien sûr en Syrie du Nord, sur la société de vigilance qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux, sur le plan Blanquer contre les violences scolaires et sur les élections tunisiennes. Et messieurs, vous arrivez au moment même où il l'annonce, Emmanuel Macron, ce conseil restreint de défense à l'Élysée face à cette situation humanitaire que le président juge insoutenable. Il considère que l'offensive turque aide aujourd'hui le groupe État islamique à réémerger dans la région. Voilà les mots forts et fermes d'Emmanuel Macron à l'instant, Georges Fenech.
Il a raison, Il n'est pas le seul à le dire, même Poutine l'a dit. Donc on a une vraie menace, effectivement. Nous savons que des valeureux soldats, ces Kurdes qui nous ont libérés de cette menace de Daesh en reprenant tous les bastions jusqu'à Raqqa. Et aujourd'hui, ils sont abandonnés par les alliés. Alors, sort funeste, on voit bien ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Et au-delà du drame que vivent les Kurdes en ce moment, il y aura aussi une menace directe pour nous tous, puisque Daesh va se reconstituer, c'est évident. Ils sont toujours là. Même si théoriquement ils ont perdu, ils sont toujours là, on le sait. La ministre de la Défense l'avait dit il y a déjà quelques mois, avant même l'agression, je parle bien d'agression turque, elle avait dit que les groupes de l'État islamique étaient toujours présents et se reconstituaient. Donc là, vous avez quelques 800 déjà proches de l'État islamique qui se sont évadés d'un camp. Vous avez les prisons qui sont bombardées. Et puis de toute façon, les Kurdes ne pourront pas à la fois mener un front contre les armées turques et en même temps garder comme prisonniers des terroristes. C'est pas possible. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en inquiéter.
Oui. Ouais, situation insoutenable pour eux sur le terrain, avec 10 000 prisonniers djihadistes sur ce terrain syrien, 2 000 étrangers, 450 Français. La tâche, en effet, est énorme et le risque à la clé l'est tout autant, Bruno Jeudy.
Oui, Georges Fenech a raison. J'ajouterais que la funeste opération turque était quand même prévisible. Il avait annoncé la couleur, hein. Il s'en est jamais caché, Erdogan, qu'à un moment ou un autre, ça se passerait comme ça. Donc on peut s'interroger sur aussi le laisser-faire, finalement, des Occidentaux. Alors, évidemment, les Américains ont joué un drôle de jeu, mais bon, l'Europe paraît un peu hors-jeu. Peut-être qu'il y aurait moyen d'agir, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais par rapport à l'OTAN, par rapport à un certain nombre de leviers qu'on peut avoir sur Erdogan. Mais manifestement, tout ça semble, hélas, programmé. Et là, on est un peu le bec dans l'eau. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu non pas sans réaction, parce que Jean-Yves Le Drian a réagi, on a entendu le président de la République et ils ont raison, mais on est sans levier efficace pour essayer de ralentir l'offensive qu'est en train de mener Erdogan et qui évidemment va se retourner contre nous, parce que c'est Daesh qui va se reconstituer et c'est tous ces prisonniers qui potentiellement sont des bombes pour les pays dont ils sont originaires pour certains et des pays européens pour beaucoup.
Absolument, et est-ce qu'on peut parler pour vous ce soir, Georges Fenech, d'un double jeu d'Erdogan dans la guerre contre Daesh, très clairement?
C'est pas la première fois. Oui. Je me souviens la manière dont, dès la création de l'État islamique, il y avait des frontières très porosives, hein, et notamment le pétrole qui continue à sortir par la Turquie de l'État islamique. Donc les menaces, ce n'est pas la première fois non plus. Souvenez-vous quand il y avait eu la question des visas pour entrer en Union européenne, déjà Erdogan avait menacé d'ouvrir les robinets et faire revenir les réfugiés jusqu'en Europe.
Et donc, il s'est calmé parce qu'on lui a filé de l'argent, en gros, pour faire ça.
Exactement, on lui a filé beaucoup. L'Union européenne.
Oui, l'Union européenne.
A distribué beaucoup d'argent, donc on sait qu'on ne peut absolument pas lui faire confiance. Mais dans la mesure où les Américains sont retirés, qu'il n'y a plus de troupes américaines, dans la mesure où Poutine, évidemment, soutient toujours Bachar al-Assad et que ça arrange aussi Bachar al-Assad, on a une Union européenne qui a une attitude, on doit le dire, munichoise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les laisse tomber, quoi. Ils nous ont sauvés et on les laisse tomber. Aujourd'hui, ils vont tous disparaître, ils vont être absolument exterminés. Ça va être un génocide, ce qui va se passer.
Les risques d'épuration que soulignait à l'instant Frédéric Ancel.
Pour des questions internes aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'Erdogan, tout le monde le sait, il considère le PKK, les Kurdes, etc., comme des terroristes. Et ce dont il redoute le plus, c'est que ces Kurdes syriens donnent exemple aux Kurdes en Turquie et pour reconstituer un grand Kurdistan. Donc il a aussi des raisons purement internes, surtout qu'il a perdu des élections récemment.
Notre volonté commune est que cette offensive cesse, dit Emmanuel Macron, qui réunit donc son conseil restreint de défense avec le risque d'un travail de contention de Daesh réduit en miettes dans les heures qui viennent. Georges Fenech est avec nous, Bruno Jeudy également, messieurs, dans le grand débrief de l'actu sur Europe 1. Je voulais qu'on revienne, puisqu'on en parlait du président, sur un autre sujet qui l'implique également, la lutte contre la radicalisation, après son hommage aux quatre personnes poignardées par l'assaillant de la préfecture de police de Paris. Vous allez écouter le président Macron parler de cette hydre islamiste.
L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste.
Il y a eu le constat, il y a eu les mots forts et les moyens d'en découdre. Bruno Jeudy, on a beaucoup parlé de cette société de vigilance, de cette co-responsabilité française face à la radicalisation. Vous avez un peu l'avantage de la rétrospective, on est en fin de semaine. Qu'est-ce que vous retenez finalement de tout ça aujourd'hui?
Bon, je retiens que Emmanuel Macron a à nouveau sans doute délivré les bons mots et il a mis les mots sur l'horreur qui s'est encore passée une nouvelle fois, j'allais dire. Le problème, c'est que c'est pas la première fois. Je veux dire, l'hydre terroriste, les mots, on avait déjà entendu un peu ça après Trèbes, avec la mort du gendarme Beltram. Et depuis, j'ai essayé de voir ce qui s'était passé et il s'est pas passé beaucoup de choses. globalement. Et on voit bien, quand même, quelque part, Emmanuel Macron délivre les mots, mais derrière, il ne se passe pas forcément beaucoup de choses. Et d'autant plus que sur l'affaire, on n'y reviendra pas, mais sur l'affaire de la préfecture de police, on peut vraiment s'interroger sur les failles, comme l'a dit Christophe Castaner, et se dire que là, au cœur de l'État, c'est-à-dire qu'on a d'abord eu le terroriste qui venait de l'extérieur, puis le terroriste qui venait des quartiers, cette fois-ci, on a le terroriste qui vient de l'État et qui attaque l'État au cœur. Sur la société de vigilance, moi, j'ai entendu beaucoup de polémiques. Moi, ça ne me gêne pas trop, les mots d'Emmanuel Macron. Non pas au sens où moi, je les ai compris comme de la vigilance pour les citoyens, de la délation. Enfin, ça, on est tout de suite parti sur la délation. Moi,
vous l'avez compris comme la responsabilité aussi des mairies, des universités, des partis, des associations.
Qui met aussi un peu, c'est une manière de mettre la pression sur. Évidemment, on a vu ce qui s'est passé à la préfecture. Peut-être des collègues de ce monsieur qui n'ont pas voulu le faire un signalement en bonne et due forme. Enfin, c'est ça la vigilance aussi. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a une espèce d'affaiblissement. Je ne veux pas dire de déresponsabilisation, mais voilà.
Démobilisation,
ou peut-être aussi on ne veut plus dire les choses parce qu'on a peur éventuellement des représailles dans certaines catégories, dans certains endroits, parce qu'il faut le dire, cette fameuse formule du pas d'amalgame, attention, ben, parfois ça fait des dégâts.
Ouais, je recevais Mohamed Sifaoui hier, qui a le courage de ses opinions et la force des mots aussi. Je sais que vous ne faites pas de politique politicienne, Georges Fenech, c'est tout à votre honneur. Mais
je n'en ai jamais fait.
Mais je sais, et pas plus aujourd'hui qu'hier. Un petit mot, parce que vous avez sans doute lu l'interview de Xavier Bertrand dans le journal du dimanche, qui aujourd'hui...
Que j'aime beaucoup.
Et voilà, qui accuse, entre guillemets, Emmanuel Macron d'avoir perdu 2 ans face à l'islam politique et qui rejoint ce que vient de dire Bruno Jeudy à l'instant sur la situation face à la radicalisation depuis en fait les attentats de Paris.
Oui. Non, Xavier Bertrand, avec lequel je me suis entretenu aujourd'hui même d'ailleurs, ce qu'il craint, c'est effectivement qu'on voit arriver chez nous des listes communautaristes, des listes religieuses politiques. Quoi. Il a raison. Et donc là, il faudrait peut-être envisager effectivement une modification de notre constitution pour empêcher ce genre de listes. Moi, je l'ai vu en Égypte, par exemple. En Égypte, par exemple, les listes salafistes sont interdites. Hein. Bon, ils arrivent toujours à contourner l'obstacle en se présentant comme une société parfaitement acceptable. Mais la réalité, c'est que dans notre pays, effectivement, on a ce risque tôt ou tard. Mais je serais moins sévère que Bruno Jeudy à l'instant sur « on ne fait rien ». Parce que moi, je trouve que je participe à des formations, je rencontre des élus, et quand même, on a eu 4 plans nationaux contre la radicalisation, parce que c'est là que ça se joue. Hein. Oui, c'est la lutte contre la radicalisation, en prévention, bien en amont, le plus tôt possible. Il y a eu 4 plans nationaux, et pas des moindres, dont le dernier en date en février 2018, qui avait été annoncé par Édouard Philippe, et qui est vraiment en place, moi je le vois sur le terrain. Il y a notamment des cellules de vigilance dans toutes les préfectures, avec des brigades d'intervention. Et on parle de vigilance, mais on a, alors je vais le rappeler à votre antenne, des choses qui sont utiles quand même, il existe un numéro vert qui fonctionne très bien, c'est le numéro vert du Centre National d'Assistance, de la Prévention de la Radicalisation. Les familles elles-mêmes qui sont désemparées par rapport au changement du comportement de leurs enfants, ils appellent sur ce numéro pour se protéger leur propre enfant. Alors, le numéro, je peux le donner.
Allez-y, stop djihadiste.
Vous qui avez été parlementaire.
Non, c'est pas stop djihadiste.
C'est pas celui-là. D'accord. Non,
c'est pas stop djihadiste.
Vous avez deux collègues qui ont fait, enfin, deux anciens collègues,
bien sûr.
Un rapport qui est un peu passé inaperçu, il faut quand même le dire, au mois de juin. Alors, ils n'ont pas eu de chance. Le rapport est tombé à un moment où il y a eu une actualité assez importante. Mais enfin, quand même. Et ce rapport. Quand on le lit, pour le coup, avec peut-être le recul est un petit peu décalé dans le temps, on voit qu'il y avait déjà 29 policiers de radicalisés, 80 aéroports de Paris. Enfin,
oui, 29 sur 400 000 policiers gendarmes.
Mais c'est quand même toujours 29 de trop.
Mais c'est 29 de trop.
Et surtout, on apprend qu'ils sont mis de côté, mais que dans les propositions, la révocation pour radicalisation, par exemple, elle n'existe pas, et que la circulaire du ministre de l'Intérieur, ben, on l'attend toujours. Lui-même l'a dit lorsqu'il a été auditionné par la commission des lois.
Oui, alors vous avez raison de rappeler l'importance de cette mission parlementaire sur la radicalisation dans les services publics, parce que c'est un phénomène qui existe, et pas uniquement dans la police.
Il y a la dans les services publics, et même aéroports, voilà. Enfin transports.
Oui. Donc il n'y a pas les actes à la clé, ce que vous entendez.
Voilà. Bon, et on a même vu des décisions de mise à l'écart, désavouées par les tribunaux administratifs, qui ont réintégré ces individus. Ouais. C'est pour ça que là, il y a une réflexion.
Il y a un problème juridique.
Comment et pourquoi ça se passe, ça? Parce que les juges administratifs n'ont pas accès aux sources de l'information, du renseignement. Donc quand on leur dit « on a des sources sur cet individu, il y a un risque réel », le juge dit « mais où sont ces sources ? Je ne les ai pas ». Donc, il réintègre, parce que juridiquement, ça ne tient pas. L'idée, ce serait, moi c'est ce que je propose, l'idée ce serait d'habiliter certains juges administratifs au secret défense, de façon à ce qu'ils aient accès aux sources eux-mêmes. On a des juges spécialisés en matière judiciaire, les juges d'instruction, les procureurs, procureur national antiterroriste, mais côté juridiction administrative, il n'y a pas de spécialisation. Il faudrait qu'il y ait une spécialisation administrative sur cette question de la radicalisation dans les services publics, et en même temps, peut-être une habilitation secrète des sources, des renseignements, de façon à pouvoir bénéficier de ces informations qu'actuellement, ils n'ont pas.
En tous c'est resté un peu en suspens depuis la publication de ce rapport. On voit bien que là,
il a explosé au grand jour, évidemment, avec cette affaire.
Ça explose au grand jour et explose aussi le problème de l'habilitation secret défense, où on a vu que là, il y avait une énorme faille dans
Monsieur Harpon. Là. Je vais aller plus loin que vous. Se pose le problème de du maintien de la DRPP. Moi, je milite depuis 2016, depuis la commission d'enquête que j'ai présidée, c'était des propositions qu'on avait faites, de rassembler tout le renseignement à la DGSI. Il n'y a aucune raison que Paris soit un État dans l'État avec leur propre service de renseignement, leur propre service d'élite.
Je ne suis pas compétent pour vous dire si vous avez raison ou pas.
Et je suis convaincu que cette malheureuse affaire, ce drame, finira par aboutir à la fusion totale du renseignement à la DGSI, qui est notre service pilote en matière d'information.
Dont vous aviez l'intuition, Georges Fenech. On retrouve dans un instant avec vous, Bruno Jeudy, pour ce débrief de l'actu. On ne va pas s'attarder sur la fausse piste, Xavier Dupont-Ligonnès, dans un instant, mais quand même, déontologiquement, ça pose des questions, donc je vous poserai quelques questions aussi. Et puis, le plan Blanquer contre les violences à l'école. Merci d'être avec nous, messieurs et chers amis auditeurs. À tout de suite. La suite de notre débrief de l'actu sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard et vos invités. Georges Fenech, ancien magistrat, ex-député Les Républicains, aujourd'hui consultant CNews. Et puis Bruno Jeudy, journaliste politique et rédacteur en chef à Paris Match.
Absolument, Georges Fenech, vous vouliez nous donner un numéro important contre la radicalisation.
Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de délation. Il s'agit de protéger non seulement la société, mais l'individu, le jeune lui-même. Il faut arriver le plus tôt possible. Donc il y a un numéro vert qui fonctionne très très bien. Je voudrais le rappeler, c'est le numéro du Centre national d'assistance et de prévention de la délinquance, qui est le 0800 005 696. Voilà, je tenais à le dire.
0800 005 696, et on le remettra également sur Twitter et sur Internet. Merci Georges Fenech. On ne va pas trop s'attarder, je le disais, sur cette méprise, Bruno Jeudy, autour de cet homme pris pour Xavier Dupont de Ligonnès, mais on peut retenir des leçons. J'aime bien la formule de notre confrère Hervé Gattegno du JDD, qui dit ce matin « Tout le monde s'est trompé sans que personne ait menti ». Ça pose évidemment beaucoup de questions sur la prudence, sur la vérification et le croisement des sources. Et on doit vraiment réfléchir à cet incident médiatique.
Oui, oui, il a raison dans sa formulation. Moi, je ne jetterai pas la pierre, évidemment, aux journalistes, non pas par réflexe corporatiste, mais bon, pour le coup, les confrères qui sont un peu ciblés, c'est des gens qui ont fait les vérifications. Alors, on peut s'interroger. C'est vrai qu'il y a à la fois, il y avait la source côté écossaise, il y a la source côté française, j'entends de la police, à haut niveau. J'allais dire, toutes les cases ont été cochées. Alors après, on peut toujours se dire, ça, on a manqué de prudence. Il y a eu un emballement. C'est vrai qu'on est dans une époque où tout s'emballe vite. Les réseaux sociaux, les chaînes infos et tout ça, évidemment, fait mauvaise mayonnaise. Et dans ce cas-là, en l'occurrence, dans cette affaire-là, c'est même très mauvaise mayonnaise. Et ça ne va pas arranger notre crédibilité auprès des citoyens. Je suis bien... C'est vrai que c'est un naufrage à la fois, je pense, pour la police, parce qu'ils se sont emballés peut-être sur la base du tuyau de leurs homologues écossais. Et c'est un naufrage, il faut le dire aussi pour nous. Même si, dans cette affaire, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de... Voilà, c'est-à-dire que... Bon, voilà, trois ou quatre sources policières comme l'ont fait les confrères du Parisien, ceux de BFM et d'autres, ou de l'AFP, ont été balancés le lendemain. Quand les policiers, parce qu'en plus les policiers français, c'est quand ils arrivent en Écosse, ils se disent c'est pas lui, alors que...
En tout cas, l'emploi du conditionnel et du point d'interrogation restera quand même aussi dans les annales. L'actualité encore, chers amis, les mots de Jean-Michel Blanquer, c'était dans le Parisien aujourd'hui, sur les violences à l'école et aux abords de l'école. On en parlait tout à l'heure, Fenech avec l'un de nos invités. Renforcer la police dans les zones sensibles et aux abords de ces établissements, c'est le triste sens de l'histoire. C'est incontournable aujourd'hui. Est-ce que ça a du sens?
Chaque ministre de l'Éducation nationale a eu son plan anti-violence scolaire. Malheureusement, on en est toujours là. Moi, j'ai même vu des propositions pour qu'il y ait des policiers dans les classes, carrément. Non, mais qu'il y ait un renforcement, effectivement, des forces de l'ordre aux abords pour éviter les rackets, les trafics de stupéfiants, etc. Mais il faut pas non plus, il faut quand même que l'école soit le sanctuaire, quoi. Il faut quand même respecter l'école. faut pas que ce soit que ça devienne un endroit aussi sous surveillance permanente. Ou alors c'est que notre société est vraiment très très malade.
Et pour resanctuariser l'école, il faut trouver des solutions.
Il faut la resanctuariser, la protéger évidemment, mais je dirais avec le plus d'intelligence possible. Il y a des liens entre des référents qui sont dans les écoles, les juges des enfants, les éducateurs. Il y a déjà un travail qui se fait. S'il faut davantage d'effectifs, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est un sujet extrêmement difficile à traiter.
Est-ce que ça passe par exemple par une position qui interroge de Jean-Michel Blanquer, appelé tout à l'heure sur l'antenne de BFM à donner son sentiment sur le port du voile par cette femme, cette maman d'élève accompagnatrice? Alors il l'a dit, en l'espèce, la loi n'interdit pas ça, mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Comment vous comprenez la posture du ministre de l'Éducation? En gros, il vaut mieux qu'une maman qui accompagne les enfants à l'école, même si elle a le droit de porter le voile, ne le porte pas.
Moi, de manière générale, je trouve que Jean-Michel Blanquer a pris un chemin, un ton, une fermeté sur la laïcité qui me va bien, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de relâchement ces dernières années. Jean-Michel Blanquer, avec Marlène Schiappa, avec 2-3 dans le gouvernement, on voit bien qu'ils tiennent cette ligne, et c'est la bonne ligne, selon moi. Après, dans cette affaire d'école, c'est très compliqué, puisque effectivement, il n'y a pas d'interdiction.
C'est pas illégal, mais c'est pas souhaitable, dit-il.
C'est pas souhaitable, et quand il dit c'est pas souhaitable, parce qu'il sait aussi que dans certains quartiers, s'il n'y avait pas ces moments-là, il n'y aurait plus de sorties scolaires. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi cette difficulté. Et je ne parle pas seulement de la Seine-Saint-Denis. À Paris, dans certains quartiers de l'Est parisien, s'il n'y a pas ces moments-là, il n'y a tout simplement pas de sorties. Donc, il y a aussi ça. Il faut aussi, un moment, je ne veux pas dire composer, mais il y a un moment, il faut aussi regarder la réalité. Il n'y a personne d'autre qui se présente pour aider. Donc, je pense que le ministre, quand il dit « c'est pas souhaitable », on voit bien, il ne va pas jusqu'à dire...
Il dit « nous sommes dans une société de liberté ».
Voilà. Donc, il prend aussi en compte une réalité dans certains coins du pays, des territoires. Et donc, mais globalement, le discours qu'il tient sur la laïcité, c'est un discours qui n'avait pas été tenu depuis quelques années en France, et qui, à mon avis, selon moi, va plutôt dans le bon sens.
Et il ajoute, et ça doit vous plaire, Georges Fenech, Jean-Michel Blanquer, qu'il veut que les enfants soient épargnés par ces débats d'adultes, débats autour du voile par exemple, et de la représentation laïque.
Oui, mais il faut aussi informer. Je pense qu'il faut éduquer les enfants sur le fait religieux, parce que lutter contre la relation, ça commence à la maternelle.
Ce qui manque cruellement.
Hein. Autant pas pour l'histoire du voile, c'est interdit ou c'est pas interdit? C'est pas interdit.
Non, c'est pas interdit. Non.
Donc, qu'est-ce que
c'est sorti d'école.
Pourquoi alors, un ministre, il rappelle ce qu'est la loi. Il n'a pas donné un sentiment personnel, je ne vous recommande, ou faites attention, non.
Donc il aurait dû dire quoi?
Il aurait dû se limiter à dire, la loi n'interdit pas le voile, point barre. La laïcité, c'est autre chose. La laïcité, ça concerne les agents des services publics, ça concerne le service public, et on a interdit, vous le savez, la burqa sur le domaine public, ça c'est certain, mais comment s'exprimer quand on est ministre du gouvernement pour dire, je vous recommande, femmes musulmanes, de ne pas porter un voile alors que c'est pas interdit? Je veux dire, mais dans quelle société on vit, quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte.
Bah, on va aller dans la société tunisienne tout de suite, si vous voulez bien, où justement des femmes, tant de femmes se sont battues pour ne plus avoir à porter le voile. Vous connaissez bien ce pays.
Il parle quand même de maman qui rentre dans l'école.
Et qui donne un
signal
différent.
C'est en ça que le ministre exprime son avis. Il ne dit pas que c'est interdit. Il exprime son avis sur le fait de maman qui rentre dans l'école. Certainement, parce que c'est pas, il faut pas non plus généraliser une situation qui n'est pas le cas.
C'est à partir de là, on commence à faire un peu l'amalgame.
Georges Fenech, un mot sur la Tunisie, vous qui êtes né à Sousse, vous allez
vous
suivre.
Vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens. Évidemment, c'est un scrutin qui vous capte.
Un scrutin qui nous inquiète. La Tunisie est en train, malheureusement, de s'islamiser véritablement, quoi, dans le sens. Bon, vu qu'El Nada a eu l'intelligence de laisser faire, là, je ne suis pas certain que la Tunisie prenne le bon chemin d'une démocratie véritable. J'ai bien peur que le prochain président, dont on connaît la rigueur intégriste sur ce plan-là, ne soit pas un modèle de démocratie. Voilà, je le dis très clairement.
On en saura plus ce soir ou demain. Merci Georges Fenech pour vos mots ce soir. Ancien magistrat, consultant pour CNews. Merci d'être venu à Europe 1. Cher Bruno, jeudi également.
Merci,
Monsieur
Wendy.
Paris Match. À tout de suite pour un air du temps très fort. L'hommage de François Claus à Eugène Saccomanno. Le Sacco.
19h55, la fin de ce grand journal du soir sur Europe 1, Wendy Bouchard avec Les Temps Changent.
Les Temps Changent.
3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est une addition terrible pour le Real Madrid.
Beaucoup ont brûlé ou ont été détruites par les guerres, les révolutions, les fautes des hommes.
We kids shouldn't have to do this.
On est assis sur une poudrière parce que les gens, ils ont peur.
Europe 1, l'air du temps. François Claus.
Et l'humeur du moment, François Claus. Bonsoir, François.
Bonsoir, Wendy. Elle est pour lui, cette chronique. Elle est pour toi, Eugène Saccomano, cette chronique. Toi qui, sans façon, m'as tant appris du journalisme. Avec quelques années de moins, Eugène, nous aurions peut-être été côte à côte dans l'avion vendredi matin pour Reykjavik, allant commenter l'équipe de France. Tu aurais bien sûr pesté, toi, le Marseillais, de devoir affronter cette drôle de froidure qui envahit le monde au nord d'Aix-en-Provence. Mais à la faute, ce Griezmann, tu aurais été le premier debout en tribune de presse et au pénalty de Giroud, tu aurais retrouvé ton regard instantanément et sa pétillance. Et même après le match, devant une assiette de poisson fumé et un verre d'aquavit, tu aurais, avec cette curiosité de journaliste toujours chevillé au corps, su apprécier avec gourmandise ces étranges coutumes venues d'ailleurs. Oui, elle est à toi, Eugène, cette chronique, toi le journaliste qui offrit à notre radio un scoop mondial lorsque le 5 septembre 1972, derrière le grillage de l'aéroport de Fürstenfeldbruck, suivant ton instinct et tes infos, tu seras le seul à décrire le massacre des athlètes israélien par un commando de terroristes palestiniens, quand tes confrères de la planète entière planquaient en vain autour de l'autre aéroport de Munich.
Vous entendez actuellement les coups de feu des tireurs d'élite qui sont toujours en train de fouiller avec des chiens policiers sur le terrain, en train de fouiller. Vous entendez actuellement une bagarre là, près du portail du terrain d'aviation. Des voitures de police entrent et sortent. Une ambulance vient d'entrer dans le camp militaire.
Un direct intégral pour l'histoire, Eugène. Même le directeur de la rédaction de l'époque, Jean Gorini, dans son auto Bianchi à Barthes, n'en croyait pas ses oreilles, tellement c'était énorme. Il voulut t'interrompre, tu poursuivis. Le lendemain, devant toute la rédaction, il te rendra hommage avec cette phrase. Sacco avait raison, les reporters sur le terrain ont toujours raison, cette leçon sacomanienne, bien des directeurs d'infos devraient s'en inspirer 47 ans après. Oui, elle est à toi, Sacco, cette chronique, toi qui m'as pris sans façon qu'on pouvait aimer d'un même amour les livres et le foot, le cinéma et le ballon. Dans l'avion retour d'Islande, nous aurions évidemment évoqué le 4-3-2-1 de Deschamps, mais si rapidement. Nul doute que nous aurions bien vite dérivé vers Pierre Loti, vers cet amour de la littérature et des mots que nous partagions, toi avec qui il était si bon dans le sillage de Céline, de refaire aussi un autre match, un autre voyage, celui du bout de la nuit.
Je suis un grand lecteur de Céline, j'ai toujours lu Céline, je connais tous les livres de Céline, donc dans ma tête, j'ai le mécanisme du vocabulaire célinien. Je nourris les répliques de Céline avec des mots à lui ou des mots que j'invente. Ça, c'est vrai, parce que je me sens très près de ce vocabulaire-là quand j'écris le livre. Hein.
En atterrissant à Paris, nous serions, Eugène, peut-être allés partager un verre de Brunello de Montalcino devant un plat de spaghetti à la vongolée au restaurant La Sardine des Batignolles que tu aimais tant, histoire de faire passer un peu le poisson fumé et l'aquavit. Oui, elle est à toi, Eugène, cette chronique, toi qui sans façon m'as pris à faire du journalisme un art de vivre, à faire de sa vie une épopée, que ce soit aux côtés de Claude François dans sa Chevrolet Mauve, quand tu fus son impresario marseillais, ou aux côtés de Philippe Séguin dans sa deux chevaux grises de stagiaire, quand tu fus son ami dans les ruelles de Malmousque. Oui, elle est à toi, Sacco, cette chronique, toi qui avais tant de talent quand il fallait nous aider à grimper sur le toit du monde.
Zidane, but !
Pierre Ménès, Gilles Verdez, Pascal Praud ont tous débuté dans l'audiovisuel à tes côtés. Toi qui inventas au début des années 90 sur Europe 1 le match du lundi, le premier talk show de foot de l'histoire. Tu n'aurais peut-être guère apprécié la dérive populiste et les jeux du cirque punchline que sont devenus les talk shows, mais sûr que tu t'en serais aussi amusé et avec eux, tant tu étais fidèle en amitié, eux n'ont pas oublié d'où ils viennent. À l'image de Pascal Praud qui t'offre un très bel hommage dans le magazine Le Point, saluant cette passion qui t'animait en permanence, celle qui faisait qu'avec toi, il fallait forcément préférer Platini à Beckenbauer, Mitterrand à Giscard et Céline à Mauriac. Comme Eugène, je n'ai qu'un mot, merci, et les Francisland n'auront plus jamais le même goût.
Cher François, dont on sent l'émotion et les accents de Brassens, merci pour ce magnifique hommage à votre ami Sacco. Merci François. Jeanne Saccomanno qui sera enterrée demain dans son village du Var à la Garde Fresnay. Je remercie Jérémy Hébert, Naïma Bencheman. On est un peu ému. Fabien Lecoeuvre et Marlène Duret. Merci chers amis de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine à 18h, le samedi.
Il est 20h.